BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, faut-il taxer les rentes pour récupérer quelques milliards? Vous savez que Gabriel Attal a demandé des propositions sur ce sujet d'ici le mois de juin. Oui, sauf que Bruno Le Maire est venu le dire ce matin en filigrane au Sénat. Ne venez pas chercher des noises à Total Energy parce que ça serait dommage quand même que Total retire son plafonnement du prix du litre d'essence à la pompe. On va voir ça bien sûr dans un instant. On va aussi parler des polluants éternels ce soir parce que ça y est, figurez-vous que l'Assemblée a voté la loi tout à l'heure qui va permettre d'en limiter la diffusion. Alors on a quand même sauvé les poils téfales dans l'intervalle. On verra ça avec Alexandra Paget. Sinon, on a une grande question qu'on posera dans 10 minutes. Est-ce que ce qu'on entend dire est vrai? Est-ce que ça y est, les prix de l'immobilier arrêtent de baisser déjà dans certaines grandes villes, voire remontent un petit peu? C'est ce qu'on lit depuis quelques jours. On posera la question au patron du réseau L'Adresse, Brice Cardi, qui sera avec nous dans 10 minutes. Et puis on parlera aussi d'Apple qui planche sur la conception de robots personnels au service des particuliers. Et ça y est, c'est bientôt iRobot dans vos salons, mesdames et messieurs. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
Good evening business, le journal.
Donc oui, ce dossier des PFAS qui nous anime depuis 48 heures. Bonsoir Alexandra. Donc ça n'a pas traîné. L'Assemblée a voté la loi qui vise à restreindre et la fabrication et la vente de produits contenant ces fameux PFAS, en épargnant notamment les fameuses poils téfales de Seb. Mais on sent que le gouvernement avance quand même très très prudemment sur ce dossier, Alexandra.
Alors effectivement, l'exécutif défend sa stratégie européenne pour interdire l'usage de certains PFAS et temporise. Des restrictions seront bien ajoutées dans toutes les réglementations sectorielles européennes dès le mois prochain, au fur et à mesure de l'avancée des travaux scientifiques européens. Et de citer la victoire française quand même obtenue dans le secteur des emballages dans un compromis de mars, mais Roland Lescure le martèle, ce n'est pas une question de fond, mais de forme. Selon le ministre de l'Industrie, je vous propose de l'écouter.
Évidemment, le gouvernement souhaite légiférer sur les PFAS, souhaite interdire les produits dangereux, souhaite privilégier la santé publique. Nous considérons que ce sera bien mieux fait dans un cadre européen qui est déjà en cours, et qui est en cours du fait de la France, d'ailleurs, qui pousse pour accélérer les procédures, d'évaluation scientifique de la dangerosité des produits. Certains sont dangereux et doivent être interdits, d'ailleurs certains le sont déjà au niveau européen, d'autres ne le sont pas et devront donc être autorisés. Et donc c'est essentiellement un écart de méthode qui aujourd'hui oppose le gouvernement à, je l'ai bien vu, la large majorité de l'Assemblée nationale.
Au niveau national, il est aussi prévu d'accélérer la production de valeurs toxicologiques de référence et la fixation de valeurs limites d'émissions, ce qui pourrait permettre des arrêtés préfectoraux immédiats en cas de rejet excessif constaté. Reste, Guillaume, que là aussi, la fixation de limites acceptables promet d'être âprement débattue, les PFAS étant jugés potentiellement nocifs, même à très faible dose.
Voilà pour ces polluants éternels, dossier dont on parlera bien sûr avec nos experts ce soir jusqu'à 20h. Merci beaucoup Alexandra. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, le gouvernement, je vous disais, continue de s'activer pour trouver quelques milliards de plus. Vous savez que l'une des pistes envisagées, c'est d'aller taxer les rentes. Justement, Bruno Le Maire en a reparlé indirectement au Sénat ce matin. Le message de fond, c'est ne venez pas redemander des comptes à Total Energy. Écoutez.
C'est moi-même qui ai demandé le plafonnement à 1,99€ à Total Energy du litre de carburant. Je pense que c'est très important de le maintenir. C'est moi-même qui ai demandé la prolongation en 2024. C'est une sécurité absolument essentielle pour les automobilistes et en particulier pour les zones rurales. Je souhaite évidemment que ce soit maintenu et que nous ne prenions aucune décision qui puisse remettre en cause ce plafonnement.
Voilà Bruno Le Maire ce matin au Sénat. Bonsoir Mathieu Pechberti. C'est ça le message, pas touche à Total, c'est ça le message de fond finalement.
Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs dans la forme à quel point le ministre de l'économie Bruno Le Maire, on va dire préservait, j'ai pas envie de dire défendait, mais préservait Total Energy qui était dans le cadre d'une audition au Sénat en tout cas un petit peu titillé sur les sujets climatiques. Alors clairement il met en avant le fait que Total est un groupe français, il n'y a pas beaucoup de majors pétrolières françaises dans le monde, il n'y en a qu'une, voilà, depuis plusieurs décennies, face à des Américains, aux pays du Moyen-Orient ou aux Chinois. Et lui met en avant évidemment le rôle important de Total Energy. Il compte sur Total Energy pour investir dans les énergies renouvelables. Je vous rappelle que l'électricien EDF maintenant est 100% public et a déjà du mal à investir dans le parc nucléaire. Il compte aussi sur Total Energy pour acheter, pour signer des contrats justement avec EDF et donc participer de manière indirecte au financement du futur programme nucléaire. Et il compte évidemment, il l'a dit, on vient de l'entendre, sur Total pour faire des efforts financiers afin de limiter, de plafonner les prix de l'essence et donc faire un geste pour le pouvoir d'achat des Français. Donc une sorte de jeu un petit peu win-win, comme on dit. Voilà, oui, alors win-win, ou en tout cas chacun y trouve son intérêt, entre Bruno Le Maire qui évite d'avoir à faire un effort budgétaire et donc demande à Total de faire un effort, qui en échange essaye de redorer son blason, parce que vous savez, Total souffre quand même d'une image assez difficile, notamment auprès des étudiants, mais dans la population, pour son image de pétrolier pollueur. Donc finalement, le ministre de l'économie à la rescousse de Total Energy.
Et fait passer un message à Gabriel Attal, qui a donc lancé officiellement la mission sur les rentes.
Absolument.
Pour le coup. Merci beaucoup Mathieu Pechberti. On en reparlera plus longuement avec vous tout à l'heure à 18h30 avec nos experts, bien sûr. Information BFM Business, la filiale française de The Body Shop, on s'y attendait, a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Paris. La demande avait été déposée il y a 2 semaines. La filiale française emploie aujourd'hui près de 260 salariés. Si le sujet vous intéresse, vous retrouvez plus d'infos sur notre site bfmbusiness.com. Et puis, il va y avoir un nouveau plan de départ volontaire chez Sanofi dans la recherche et développement. Plus de 300 postes sont concernés. Le groupe l'explique, désormais, c'est plus le cancer qui l'intéresse prioritairement. C'est l'immunologie désormais. Hélène Cornet.
C'est un vrai virage stratégique. Sanofi stoppe la plupart de ses projets en cours dans l'oncologie, un domaine thérapeutique très gourmand en investissement, plus d'1 milliard d'euros l'an dernier, où le laboratoire n'a pas rencontré pour le moment beaucoup de succès, et même plutôt des échecs, comme le traitement expérimental contre le cancer du sein. La marche était trop haute pour rattraper ses concurrents. Sanofi préfère concentrer ses investissements dans l'immunologie, où il a pour ambition de devenir leader mondial. Une nouvelle étape qui implique de prendre des décisions fortes, reconnaît le groupe. 330 postes de chercheurs vont être supprimés. Un nouveau plan de départ volontaire, le troisième depuis 2019, qui ne passe pas auprès des syndicats. Il dénonce un énième changement de cap et regrette qu'on ne laisse pas à la recherche le temps long nécessaire. Plus globalement, il s'inquiète de l'avenir de la R&D chez Sanofi, dont les effectifs ont fondu de moitié en 10 ans.
Hélène Cornet, dans l'actualité entreprise toujours, ça se présente mal pour Vodafone, qui veut fusionner avec la holding de l'opérateur Three. L'autorité britannique de concurrence lance une enquête approfondie sur cette opération. Elle craint qu'elle ne débouche sur des hausses de prix dans les télécoms du côté de la Grande-Bretagne. Et puis on vient en France avec nos systèmes de retraite. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On en parle parce qu'il y avait une réunion aujourd'hui du COR, Conseil d'orientation des retraites, qui éclaire régulièrement le gouvernement sur ce sujet. Réunion au cours de laquelle son nouveau patron a présenté une nouvelle méthode de calcul qui pourrait durcir un peu les scénarios. Les syndicats regardent ça avec beaucoup d'inquiétude. Caroline Morisseau.
Changement de reine et changement de méthode. Gilles Berset, qui a succédé à Pierre-Louis Lebras, accusé pendant la réforme des retraites de minimiser l'ampleur des déficits, veut lui rectifier le tir sur un certain nombre de paramètres. Pour lui, il faut notamment tenir compte du ralentissement structurel de la productivité amorcé avant la crise sanitaire et qui s'est encore accentué depuis. Le COR tablerait désormais sur une croissance annuelle de la productivité, comprise non plus entre 0,7 et 1,6%, mais entre 0,4 et 1,3%. Autre changement encore, pour plus de lisibilité, il envisage de présenter un seul scénario de référence et non pas plusieurs, comme lors des derniers rapports où chacun y allait du coup de son interprétation, entre ceux qui considéraient que le système était au bord de la faillite et ceux pour qui il n'y avait pas urgence à réformer. Reste que tous ces paramètres sont loin d'être anecdotiques. De la productivité dépend l'évolution des salaires et donc des cotisations. Opter pour un scénario plus pessimiste risque de dégrader le diagnostic général. Certains syndicats soupçonnent le nouveau président du COR de vouloir noircir le tableau pour justifier ensuite une nouvelle réforme des retraites.
Voilà, sujet ultra sensible dont on parlera aussi avec nos experts ce soir sur BFM Business. Et puis alors, on voulait vous montrer une illustration du business que peuvent générer les Jeux Olympiques, même pour des PME. Vous savez qu'Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui le centre aquatique olympique du côté de Saint-Denis. Zidane Azouzi nous présente à cette occasion une start-up qui a conçu les sièges et de la piscine olympique et de l'Adidas Arena d'ailleurs, dans le 18e arrondissement de Paris. Reportage.
Des sièges fabriqués à 100% à partir de déchets plastiques. C'est la mission que s'est lancée Le Pavé. Dans son usine, en région parisienne, la start-up reçoit la matière déjà collectée, triée et nettoyée. Les déchets sont ensuite mélangés. Détail Judith Seba, responsable R&D.
Ici, nous sommes devant les silos dans lesquels on va prendre la base matière et incorporer des broyés qui peuvent être des bouchons de bouteilles ou des broyés de bouteilles de lait, et qui vont donner la texture et l'aspect esthétique final des plaques.
Des plaques qui sont ensuite découpées et assemblées par un autre partenaire. En décrochant ce contrat pour les JO, cette start-up de 35 salariés a dû relever le défi pour respecter les délais de livraison, explique Marius Hamelot, le cofondateur.
Ce projet de réalisation de 11 000 sièges, ça a été une opportunité incroyable. On a dû passer sur des créneaux de 3-8 en travaillant jour et nuit. Ça nous a aussi amené à mettre en place une politique d'insertion. On a embauché 4 personnes justement pour réaliser l'ensemble de ces sièges.
En accélérant sa production, Le Pavé a réussi à fournir les 8000 sièges ici à la piscine olympique. Pour poursuivre sa croissance, la start-up inaugurera une nouvelle usine en Bourgogne dès le mois de juin prochain.
Voilà la PME Le Pavé qui profite ardemment des Jeux Olympiques. Zidane Azouzi avec nous sur BFM Business. 18h10, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, bonsoir Étienne. Étienne Braque, Euronext à la Défense pour BFM bonsoir. Business. Bon, journée pour pas grand-chose parce qu'on termine quasiment à l'équilibre là ce soir, Étienne. Hein.
Avant le très attendu rapport sur l'emploi américain demain, de l'attentisme donc aujourd'hui, un CAC 40 qui clôture parfaitement stable à 8151 points, nette sous-performance par rapport à Wall Street puisque vous avez trois indices américains qui sont dans le vert et qui se rapprochent de leur plus haut historique. Du côté des valeurs à retenir ce soir, vous avez Renault qui est sur des plus hauts de 2019 avec HSBC qui voit du potentiel. La valeur frôle désormais les 50 euros à 49,60 € grâce à une hausse de plus de 3%. Et puis vous avez également Volvo qui a rassuré, qui gagne plus de 6% ce soir à Stockholm avec des ventes historiques au mois de mars, donc ça propulse la valeur. Et puis autre valeur à surveiller aujourd'hui, c'est Deliveroo qui gagne quasiment 14% du côté de Francfort avec un fonds activiste qui fait son entrée dans le livreur de repas. Donc par rapport à cela, vous avez un regain spéculatif qui revient sur la valeur. Et puis à l'inverse, c'est plus compliqué pour Carrefour qui est la plus forte baisse du CAC 40 ce soir. La valeur abandonne quasiment 3% à 15,50 € alors que Kantar a publié les parts de marché en France et que Carrefour continue de reculer, alors qu'Intermarché, Leclerc et Système U sont toujours dans le palmarès et continuent de gagner des parts de marché. Carrefour, donc plus forte baisse du CAC 40 ce soir, le tout donc dans une tendance stable à 8151 points ce soir à la clôture.
Merci beaucoup Étienne, on regarde ce qui se passe à Wall Street, évidemment on est à la mi-séance sur le marché américain, le Dow Jones qui grappille 0,57%, 39 349 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est en hausse également plus 1%, 16 438 points, tout ça à la mi-séance. 18h12, beaucoup de choses à voir d'ici 18h30 sur BFM Business. D'abord, grande question, est-ce que comme on l'entend, on le lit, les prix ont déjà commencé à repartir à la hausse dans les grandes villes? Brice Cardi, le patron du réseau, l'adresse est avec nous dans un instant. Et puis Apple, c'est Bloomberg qui l'annonce, Apple qui planche sur la construction de robots personnels, bientôt iRobot dans votre séjour, mesdames, messieurs. Tout ça dans le prochain quart d'heure, bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 18h15, on est de retour dans Good Evening Business. On va parler immobilier parce qu'on lit, on entend beaucoup de choses ces temps-ci sur le marché immobilier. On voulait en parler avec un acteur de référence. C'est Brice Cardi qui est avec nous, le président du réseau L'Adresse. Bonsoir Brice, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Je n'ai jamais le chiffre. C'est combien d'agences aujourd'hui
C'est un peu moins de 350 agences, un peu plus de 330, on va dire, entre 330 et 350.
Un peu plus de 330. C'est plus difficile d'ouvrir des agences aujourd'hui. On voyait l'année dernière beaucoup d'entreprises, beaucoup d'agences qui sont allées au tapis. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui?
C'est un peu plus compliqué que les années qu'on a connues, qui sont des années extrêmement dynamiques et folles, qui ont duré pratiquement 8 années. Mais tout est une question de motivation. Si on est motivé et qu'on a l'énergie qu'il faut et qu'on rentre dans le bon réseau avec les bonnes méthodes et les bons outils et les bons services, logiquement, ça se passe bien.
C'est un métier qui se professionnalise de plus en plus. C'est ça votre argument pour dire?
Moi, j'ai toujours pensé que c'était le cas. C'est vrai qu'on a eu quelques années, on va dire, faciles, qui ont permis à de nouveaux acteurs de s'installer sur le secteur. Aujourd'hui,
est-ce que ça sous-tend pour le meilleur et pour le pire, Brice?
Ah, mais on est complètement là-dedans, bien sûr.
D'accord.
Là, on est dans le dur. On est vraiment dans le dur. On est dans le dur et c'est pas fini.
Mais le métier a de l'avenir, on est d'accord. Il y a pas de...
Ah, mais le métier, il est absolument passionnant. Alors, ouais. Je ne vais peut-être pas être objectif, parce que moi, ça fait plus de 25 ans que je le pratique. Ouais. Mais c'est un métier de rencontre. C'est un métier de rencontre où on participe à des projets de vie.
Ouais.
Des projets de vie qui sont extrêmement importants pour les Françaises et les Français, qui sont extrêmement attachés à se sentir bien chez soi et surtout bien chez eux, c'est-à-dire en tant que propriétaire. Et ça, quelles que soient les tempêtes qu'on a pu traverser ces 25 dernières années, c'est un métier où il faut finalement être bon ou plutôt moyen plus dans beaucoup de domaines, que ça soit la comptabilité, le management, la digitale, l'informatique, enfin faut être un peu un touche à tout.
Bon, confie pas ça à n'importe qui quoi.
Ah non, c'est clair, faut voilà. D'accord. et puis surtout, avant le client final, il y a un nouveau client qui s'est installé et ça fait quelques années, tant mieux aussi pour eux et pour nous. C'est le collaborateur. Collaborateur, faut lui donner envie de venir, faut lui donner envie de rester, faut savoir l'intégrer, le former, le fidéliser. Bon bref, c'est une belle activité.
Mais il y a de l'avenir. Brice, on voulait vous avoir avec nous ce soir parce qu'on lit, on entend depuis quelque temps que ça y est, les prix ont arrêté de baisser dans les grandes villes, voire qu'ils commencent à remonter. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez sur le terrain ou pas véritablement?
Absolument pas.
Du tout?
Du tout.
Ça baisse toujours?
Ça baisse toujours. Alors après, une fois de plus, hein, j'ai pas de boule de cristal, je suis venu sans boule de cristal.
Après, je pousse certains disent que ça baisse pas assez vite.
Alors après, ça c'est autre chose. Oui. Mais aujourd'hui, de pouvoir, en tant qu'acteur professionnel, prédire ou même dire que ça y est, sur certains secteurs, les prix augmentent, je crois pas. Alors, toujours pareil, il y a toujours de rares exceptions, de rares biens d'exception, des endroits qui sont extrêmement préservés. La région, la Riviera, tout ce qui est PACA, avec une clientèle étrangère qui est de retour avec un euro qui est toujours plus compétitif qu'il l'était ces dernières années. Donc, ça, c'est les exceptions. Si vraiment on pense macro, si on pense général, le marché, il est obligé de se réparer. Il est obligé de se corriger. C'est mécanique et mathématique. Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer des bonnes choses et des moins bonnes choses.
Alors, allez-y.
On commence par quoi? Les bonnes choses?
Oh, bah oui, allez.
Alors, les bonnes choses, c'est que, oui, les banques sont de retour. Elles le sont, on le sent dans nos agences. Elles ont, pour certaines, même fait de grosses publicités à la télé pour dire que ça y est, les vannes étaient à nouveau ouvertes. Tant mieux. Donc ça, j'ai envie de vous dire, il était temps, parce que très franchement, on n'aurait pas pu tenir encore beaucoup de temps. La bonne nouvelle également qui se confirme, c'est le retour des primo-accédants.
Oui.
Là, pareil, avec des choses extrêmement factuelles, j'ai pris le soin, avant de venir à votre rencontre, d'appeler certains associés du réseau L'Adresse, notamment sur les villes que vous m'avez évoquées lors de votre invitation, Rennes, Le Havre, etc.
Oui.
Donc je les ai appelés. Donc ils m'ont bien confirmé que les prix n'augmentaient pas, bien au contraire, ils continuent à baisser. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entre eux sont des gros administrateurs de biens, donc ils font de la gestion locative. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça y est, le parc locatif commence à se libérer.
Ça y est.
Donc ça veut dire que si jamais on commence à avoir des locataires qui déposent leur préavis, généralement, c'est pas pour retourner chez leurs parents, c'est pour acquérir. Acquérir, ça veut dire qu'on a un retour confirmé des primo-accédants.
Oui, mais alors on nous dit effectivement il y aura beaucoup moins de transactions cette année parce que même si les conditions d'emprunt commencent à se desserrer, ça ne compense pas la perte immense de pouvoir d'achat immobilier qu'on a observé depuis 2 ans. Est-ce qu'on a épongé ça? Pas véritablement encore.
Non, on n'a pas épongé ça, c'est toute la difficulté.
Ça se chiffre à combien la perte d'achat de pouvoir immobilier en 2 ans à peu près, Brice?
25%. Alors, pas, 3 ans, en fait, c'est pas compliqué. C'est même assez mémotechnique. En 2021, on était à 1%.
Ouais.
22, 2, 23, 3, 24, 4. Donc, on nous a beaucoup parlé de l'inflation, du blé, etc. On a quand même pris 400% d'inflation sur les taux d'emprunt. Alors, attention, 2021, c'est une année record. Hein. Ça ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'octroi des prêts. Mais clairement, si vous prenez toujours le même exemple, parce que c'est le panier moyen en France qui est 300 000 euros, eh bien, en 2021, vous êtes un foyer, vous gagnez 4 000 euros net par mois, vous empruntez 300 000.
Mmh.
En 2024, vous pouvez emprunter 225 000.
Ah oui.
Donc les chiffres, ils sont clairs. Aujourd'hui, même avec 0,5% d'amélioration des taux, ce qui est le cas en fonction de votre profil et aussi du profil du bien, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais par rapport à tout ce qui est
énergétique,
0,5% sur 300 000 empruntés, ce n'est que 10 000 euros.
Ouais, c'est ça.
Donc les propriétaires, si vous voulez, aujourd'hui, il se passe quelque chose, c'est que grâce ou à cause de certains médias comme les vôtres, on a en effet, moi le premier, ici même, annoncé que ça y est, on sentait des frémissements, on sentait que les banques étaient de retour.
Enfin, vous disiez à cause, mais enfin, pas cette question.
Non, mais bon, non, parce que finalement, il y a une confusion qui s'installe chez certains propriétaires et qui se disent
alors,
attendez, ça y est, on annonce que les banques ouvrent les vannes, on annonce que ça y est, le marché est en train de repartir. Très franchement, pourvu que ça dure et il faut modérer l'emballement, ce qu'on oublie de dire, c'est que ça se fait de manière doucement. Ça, qu'en gros, on n'est pas l'alignement de planète, on n'y est pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on a certains notamment les primo-accédants qui sont de retour, mais aujourd'hui, ces primo, leur prête 225-235, leur prête plus 300 000.
Alors, la bonne nouvelle, Brice, c'est bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui veulent acquérir, qui disent, je vais peut-être encore attendre un petit peu, finalement. La mauvaise nouvelle, vous parlez des propriétaires. Bah, pour eux, c'est une mauvaise nouvelle parce que eux ont encore du mal, on le voit véritablement, à baisser les prix.
Alors, c'est ça la confusion qui se passe aujourd'hui.
Est-ce qu'on a encore beaucoup de mal à les convaincre, les propriétaires?
Bah, c'est là qu'il faut être professionnel. C'est là qu'il faut avoir de vrais outils.
Où est-ce que ça commence à rentrer, hein?
Alors, très franchement, alors, c'est là qu'on en revient aussi sur les disparités, hein. Le monde a changé. Il y a eu un avant, un après confinement. Et ça, c'est du reste plutôt passionnant pour un acteur comme moi. C'est qu'en effet, avant, il y avait toujours le même constat. C'est le pouvoir d'achat qui généralement dépend de votre emploi. Votre emploi, généralement, jusqu'à présent, il était toujours au même endroit dans les grandes agglos. Paris, pour ne pas la nommer. Tout ça, ça s'est redessiné après confinement. Et en effet, il y a eu le fameux exode urbain, l'attrait du vert à tous les sens, dans tous les sens du terme.
C'est fini, ça?
Alors, c'est fini, mais c'est là qu'il y a un rééquilibrage. Là où ça a décroché le plus vite et le plus tôt, c'est dans les grandes agglos.
Ouais.
Et grâce justement à des médias, à nous sur le terrain, on a su faire entendre raison. Aujourd'hui, un propriétaire qui s'est essayé, moi j'ai des exemples très concrets, parce que comme vous le savez, l'adresse est une coopérative, donc moi je suis président du réseau, mais j'ai aussi 15 agences en propre, et puis qui sont éparpillées entre Paris, Toulouse, Nîmes, Évreux, donc j'arrive à avoir des nouvelles assez fraîches de mes équipes. Et bien, ce qui se passe, c'est ça, c'est les grandes agglos, les propriétaires ont compris un peu avant les autres pourquoi. Parce que ça a décroché plus vite là où l'immobilier est cher. Là où justement le panier moyen, c'est pas 300 000, c'est 500 000. Il faut se rappeler aussi que même si les conditions d'octroi se sont un petit peu améliorées, il y a encore quelques mois, on vous demandait 30% d'apport. 30% d'apport sur un bien à 600 000 euros, c'est pas 30% d'apport sur un bien à 60 000 euros. 60 000 euros à Évreux, je vous loge, je peux vous trouver un logement. 60 000 euros à Paris, c'est le prix d'un box. Donc clairement, il y a eu vraiment un décrochage qui s'est fait dans les grandes agglos, et ça a plus tenu dans les fameuses petites villes moyennes, ce qu'on a appelé les villes cathédrales. C'est en train aujourd'hui de se produire, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, parce que les vendeurs sont restés encore sur des idées qui ne sont plus malheureusement celles d'aujourd'hui.
Ce qui fait que les prix ne baissent pas plus vite, c'est aussi l'effondrement du marché du neuf, ça pèse aussi. Il y a un report sur l'ancien, évidemment, Brice, c'est un mécanique, ça aussi quand même, ça joue.
Tout à l'heure, vous avez écouté l'inflation, aujourd'hui, la vraie difficulté, et ça c'est un des points fondamentaux de l'acquisition, de se porter à cœur d'un bien, c'est l'état de, j'ai plus le mot.
Ça va y revenir, mais bon. Bon, la question que j'ai envie de vous poser,
par rapport au ménage, la confiance des ménages.
La confiance des ménages.
Aujourd'hui, on a un contexte national, surtout géopolitique et compagnie, sans précédent, qui font que c'est un peu le yo. On a eu un bon démarrage en début d'année qui nous a laissé entendre que c'était reparti. Ça s'est un peu ralenti en mars. Là, c'est reparti également. Ouais. Mais très franchement, quand je vous dis pourvu que ça dure, on est à l'abri de rien.
On vous dit pourvu que ça dure. Donc, l'an dernier, les prix ont baissé en moyenne de 1%. Je voyais la FNAM qui nous dit on va avoir 10% de transactions au moins cette année. Ça ne veut pas dire une baisse des prix de 10%, mais la FNAM dit allez, au doigt mouillé, on voit une baisse des prix de l'ordre de 5-7% au niveau national. Vous allez jusque-là, vous?
Alors, moi, je suis un petit peu plus optimiste, que la FNIM, que je connais bien, au niveau des volumes.
Ouais.
J'ose espérer qu'on pourra être mieux que l'année dernière. Mais ça, on le saura très prochainement par rapport au printemps. Vous savez, le printemps, c'est un indicateur qui est incroyable, notamment par rapport à tout ce qui est inscription des écoles et qui touche en effet un profil de type de ménage. Soit avec des enfants, les inscriptions, c'est marrant que ça se passe. Donc moi, sur le volume, j'aurais tendance à dire que je pense qu'on va être à iso-périmètre ou si on perd, on perdra pas 10%. En revanche, au niveau des prix, je rejoins parfaitement la FNAM. Je vous le disais, c'est mécanique, c'est mathématique. Aujourd'hui, plus que jamais, faut le savoir, sur certains secteurs, 70% des acquéreurs passent par la case crédit. Et ben, la case crédit, on passe toujours sur les taux, et aujourd'hui l'alignement des taux, c'est qu'on n'est plus du tout aligné sur 2021-2022. Donc si réellement on devait comparer 2022, mécaniquement ça ne peut pas augmenter, ça doit continuer à baisser.
Bon, conclusion, vous tordez le cou aux idées reçues, ça va continuer à baisser, Brice.
Moi, à part une fois plus quelques exceptions.
C'est donc
mais
pas
au
le moment d'acheter,
ça ne peut que baisser.
Donc c'est pas le moment d'acheter, comme dit Marie-Cœur de Roy, c'est le moment d'attendre.
Surtout pas.
Ah bon, bah alors.
Ah non, faut pas attendre. Faut pas attendre. Une fois de plus, alors ça va pas plaire à nos partenaires banquiers.
Vous me dites ça va baisser encore cette année, pourquoi je n'attendrai pas?
Ça va baisser. Mais.
Il faut engager maintenant.
Ça va baisser, mais une fois de plus, ça va baisser en fonction des taux. Ce qu'on annonce aujourd'hui dans la baisse des taux, c'est 0,5% d'ici la fin de l'année.
D'accord,
0,5, c'est 10 000 euros de capacité d'emprunt de plus. Donc c'est rien. Là, l'idée, c'est d'aligner les planètes, c'est d'avoir la capacité justement de trouver un bien où il y a encore quelques années, on n'avait plus la capacité de le faire. où on n'avait même pas le temps d'appeler pour visiter, que c'était déjà vendu. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, notamment beaucoup d'aides. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler.
On est au bout là.
MaPrimeRénov, etc. Non, c'est plus que jamais le temps d'acheter. Et concernant les taux, parce qu'une fois de plus, ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent a changé de camp. Il est passé de la poche des vendeurs à la poche des banques. Mais la bonne nouvelle, c'est que celles et ceux qui vont acheter aujourd'hui, ils auront tout à fait la possibilité, comme moi je l'ai eu fait il y a 15 ans, de renégocier leurs taux dans 2 ou 3 ans, que les taux seront plus attractifs. Bon. Donc c'est vraiment le bon. Le temps, l'attente, c'est pas le bon choix, ni pour les vendeurs, ni pour les acquéreurs.
Eh ben on y va. Merci beaucoup Brice. Merci de passer nous voir. Brice Cardil, président du réseau L'Adresse. Merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business. 18h27, Frédéric Simotel nous a rejoint pour des nouvelles. Alors je sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Guillaume.
C'est l'agence Bloomberg qui donnait cette info. On voulait en dire un mot avec vous. Apple, alors qu'il a renoncé à faire des voitures électriques, Apple se lance dans les robots autonomes pour les particuliers. Donc ça va être iRobot chez nous bientôt, c'est ça Frédéric?
En tout cas, c'est ce que nous dévoile Marc Gurman, qui est un journaliste de Bloomberg, toujours bien informé. Et là, il nous annonce que Apple, donc, alors vous attendez pas à un robot domestique, humanoïde et tout ça. Hein. Pour l'instant, on est plutôt un bras robotisé avec un écran un peu style Echo d'Amazon. Donc quelque chose d'assez simple, mais qui pourrait quand même, c'est un robot domestique, qui pourrait rendre quelques services, notamment pour la visioconférence. Alors il paraît qu'il peut même verrouiller un visage lors d'un appel vidéo, verrouiller un visage dans une foule. En tout cas, Apple, faut qu'il y ait vraiment ce renouveau. Là aujourd'hui, on a vu le projet Apple Car qui a été arrêté. Alors, on en avait jamais vraiment parlé, mais en tout cas, pour ce que l'on en sait aujourd'hui, il a été arrêté. On a le retard en intelligence artificielle. On entend beaucoup les Microsoft, on entend les Google, on commence à entendre Amazon. On entend très peu, on entend Facebook bien entendu, enfin Meta. On entend très peu Apple. Donc là, il y a un retard aussi qui s'affirme. De plus en plus. On a le décollage difficile du casque Vision Pro. Hein. Alors on le sait, c'est un casque bardé de technologie qui illustre un peu ce que va devenir l'informatique de demain pour Apple. Mais voilà, c'est pas le succès non plus escompté. Tout le monde se dit bon, c'est bien quelques usages, mais au bout du compte, on le pose sur le bureau. On a la concurrence à venir sur les magasins d'app, puisque avec le DMA en Europe notamment, mais ça va donner des idées où dans les autres le pays. Il y a le domaine des processeurs. Hein. Apple veut continuer à développer ses propres processeurs et autour de l'IA, ben c'est compliqué. Le marché chinois qui doit porter la croissance d'Apple, eh bien là aussi c'est compliqué et notamment avec la concurrence des constructeurs, la succession de Tim Cook, l'action. Oh. Perdu 11% depuis janvier.
Alors on fait des robots personnels.
Voilà, donc il faut trouver quelque chose. Ça va bien. Hein, ils vendent toujours de l'iPhone et tout ça.
Oui, mais
il faut trouver le one more thing.
Il n'y a pas eu d'innovation effectivement majeure depuis l'Apple Watch finalement.
Voilà, c'est un peu ça. Alors on parle de l'iPhone client. Là, il y aura la WWDC qui est la grande conférence développeur. C'est pas la grande conférence produit, la grande conférence développeur le 10 juin. Mais là, voilà, il faut préparer quelque chose. Donc allez, on laisse fuiter une information. Nous sommes en train de travailler sur un robot domestique. Alors après, il faut voir qu'un robot, c'est quand même compliqué. Alors, ils ont lancé plusieurs experts ont trouvé dans les job boards, Apple qui recherche ou des sous-filiales d'Apple qui recherchent des chercheurs en robotique, pour développer tout ça. Parce que la robotique, c'est compliqué, hein. C'est du numérique, c'est de la mécanique. Il y a des petits moteurs qui chauffent. Faut un support pour le moteur robotique pour porter tout ça. Faut un écran, faut de l'autonomie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et après, faut de l'intelligence derrière tout ça, donc c'est pas gagné. Bon, Apple a évidemment les capacités, ils l'ont montré, il y a tellement d'intelligence là-dedans qu'ils vont bien réussir à mettre de l'intelligence dans un robot. Mais voilà, on est un peu surpris parce que c'est pas forcément le produit auquel on s'attendait plus moi je trouve qu'Apple, peut-être la partie Tim Cook, parce que effectivement vous l'avez dit, c'était la montre, mais peut-être plus à des grands partenariats, trouver de la valeur à partir de tous ceux qui font des applications dans l'univers Apple. Moi, je vois plus l'innovation. Mais par contre, cette innovation, elle se voit moins. Elle rapporte plus, mais elle se voit moins. Donc, il faut montrer aussi quelque chose, la face immergée de l'iceberg.
Le robot. Alors, c'est pas le robot domestique, c'est peut-être une esquisse de robot domestique.
Oui, c'est une esquisse de robot domestique, qui nous suivra un peu partout à la maison, qui va peut-être garder la maison quand on n'est pas là. Enfin, il y a plein de choses à raconter.
Tout un rêve. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. Il est 18h30 sur BFM.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35 sur BFM Business, nous sommes repartis. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume,
Audrey
et bonsoir Tcherkov, à tous.
Bien sûr avec nous jusqu'à 20h et nos experts sont là. Mathieu Pechberti est là. Bonsoir Mathieu. Emmanuel Le Chypre.
Bonsoir à tous.
Qui vient de se rengorger comme en son habitude. 10 secondes avant toujours, le timing est impeccable.
extraordinaire. Il a même eu le temps de remettre sa cravate.
Impériale. Voilà. Emmanuel Kessler, le journaliste économique, est avec nous. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir à vous.
Bienvenue, merci d'être avec nous pour décrypter l'actu qui est encore très riche, avec cette chasse aux milliards, toujours et encore, qui va nous accaparer encore bien longtemps. Et Gabriel Attal qui a reçu ce matin le rapporteur du budget, vous savez, Jean-René Cazeneuve, pour installer la mission spéciale qui lui a été confiée sur la taxation des rentes. Et l'idée, c'est de faire remonter des propositions d'ici le mois de juin, finalement.
Oui, et Bruno Le Maire l'a redit, lui, ce matin, lors d'une audition devant le Sénat, patouche à Total Energy. On l'écoute tout de suite et on en débat ensuite.
C'est moi-même qui ai demandé le plafonnement à 1,99€ à Total Energy du litre de carburant. Je pense que c'est très important de le maintenir. C'est moi-même qui ai demandé la prolongation en 2024. C'est une sécurité absolument essentielle pour les automobilistes et en particulier pour les zones rurales. Je souhaite évidemment que ce soit maintenu et que nous ne prenions aucune décision qui puisse remettre en cause ce plafonnement.
Alors d'un côté, Mathieu Pechberti, on a Gabriel Attal qui nous dit ne pas avoir de dogme sur le sujet des surprofits. Et en même temps, Bruno Le Maire a été plutôt clair, on ne touchera pas à Total.
Oui, bon, il y en a un qui fait le good cop, le bad cop, c'est assez habituel, mais il y a toujours eu, de la part de Bruno Le Maire et d'ailleurs d'Emmanuel Macron, un refus de faire des taxes sur les super profits des énergéticiens, de manière générale, et en particulier sur Total. Donc là, Bruno Le Maire a été auditionné au Sénat, justement pour un petit peu connaître les implications de l'État chez Total en termes de politique énergétique. Il a clairement dit que Total était une grande entreprise, un acteur clé de la politique économique pour investir ici ou là en France, renouvelables, le nucléaire, et évidemment on en vient au prix à la pompe, et ce qu'il fait comprendre là, c'est que c'est lui qui décide des prix à la pompe, hein. Vous entendez ce qu'il dit. Le maire a dit, Total a plafonné les prix à ma demande, ils ont prolongé cette mesure à ma demande, et je souhaite que cette mesure soit prolongée. Ça mange pas de pain, c'est sûrement comme ça que ça s'est passé, et que c'est effectivement le deal. Le gouvernement ne touche pas à Total. Total n'a aucun intérêt à ce que le gouvernement mette le moindre orteil chez lui. En partie, vous faites des efforts. Ça avait été un petit peu la même chose qui avait été faite sur d'autres énergéticiens l'année dernière. Enfin, il y a deux ans, pardon, pendant la crise énergétique, sur cette fameuse taxe inframarginale où, en fait, le prélèvement avait été dealé avec les énergéticiens.
Et qui a rapporté beaucoup moins que prévu.
Voilà, et en échange de quoi il n'y avait pas de taxes comme ça a été fait dans d'autres pays. Voilà, donc chacun est dans son jeu. Mais effectivement, pour le moment, on ne touche pas Total. Ouais. Bah, c'est vrai, on touche pas Total tant qu'il participe à l'effort.
Bah, voilà, justement, quel intérêt effectivement d'aller chercher des noises à Total? Parce que demain, Total retire son plafonnement. Ça va se sentir à la pompe. Aller chercher une contribution qui va rapporter quelques pouillèmes. Alors je parle en centaines de millions d'euros.
C'est surtout une manière pour l'État, pardon, de pas mettre la main à la poche lui-même.
Oui.
Puisqu'après, vous aurez beaucoup de députés qui diront à l'État, mais baissez vos taxes. Alors là, si vous baissez vos taxes,
c'est... Non, mais c'est ça, faire une contribution de quelques centaines de millions d'euros sur les profits de Total qui va aller au trésor public et qui sera complètement invisible. Autant qu'il continue à
faire. C'est exactement ça, on est dans le symbole. Là, on est dans un débat de communication politique. Un jeu aussi intra-majorité avec une cible qui est Bruno Le Maire, parce que c'est vrai qu'on voit que dans la majorité, notamment chez les députés, beaucoup ont envie de lui faire la peau, hein, sur ces questions budgétaires. Donc il y a un jeu politique assez complexe. Mais sur le plan économique, effectivement, vous avez raison. C'est pas du tout, toutes ces discussions sont purement symboliques. Alors il y a du symbolique, il y a de l'émotionnel dans le débat public et c'est normal, mais c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu, puisque, pardon, vous l'avez dit, mais la contribution exceptionnelle, elle a rapporté quelques centaines de millions d'euros. Je rappelle quand même qu'on est sur 10 milliards, 20 milliards d'économies, 50 milliards à faire d'ici 2027, nous a dit récemment la Cour des comptes. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui est évoqué. Alors effectivement, symboliquement, on peut vouloir faire une taxe sur Total pour faire passer d'un autre côté une révision de l'assurance chômage. Voilà, dire que si on frappe certains publics en difficulté, il faut aussi frapper une entreprise qui est le symbole de la richesse et de l'opulence française. Mais c'est pas du tout dans ces termes que se pose le débat économique. Et si on regarde les choses objectivement, mais encore faudrait-il qu'il le fasse. Bruno Le Maire a eu raison dans sa tribune, dire que le vrai enjeu, c'est pas tant... On se jette sur un débat sur les recettes et sur les impôts, on va peut-être en parler plus longuement, alors que le véritable enjeu, c'est celui des dépenses.
Voilà. Oui, et des réformes structurelles aussi. Voilà. Mais, on voit bien qu'il y a des désaccords au sein de la majorité, puisque Thomas Cazenave, le ministre délégué aux comptes publics, c'est lui qui a remis une pièce dans la machine et qui rappelle qu'en 2023, Total a fait des bénéfices records, 19,9 milliards d'euros, et que donc il faut aller... taxer, chercher ces super profits pour combler les trous dans le budget, Emmanuel Le Chypre.
Alors, moi, j'ai un petit problème de calendrier déjà. C'est-à-dire que si on veut surtaxer les profits 2023, il faudrait quand même se dépêcher, quoi, parce que...
Oh, bah, pff, il passe après, hein.
Ça. Bah, oui, mais après, et alors après, on est quand même dans une situation assez, assez ubuesque. Il y a deux scénarios. C'est-à-dire qu'en gros, soit les prix du pétrole flambent, et là, effectivement, le plafonnement s'applique, et on voit mal comment le gouvernement pourrait laisser les prix flamber, alors que le patron de Total pourrait dire, mais attendez, moi j'avais proposé, voilà. Et de toute façon, si les prix du pétrole ne flambent pas, il n'y aura pas de super profit. Donc, c'est quand même...
Non, mais l'idée, c'est de dire qu'a priori, en 2024, les prix du pétrole ne vont pas flamber et aller chercher les super profits qui ont, dans les comptes qui ont été arrêtés il y a quelques mois.
Ce sujet.
Des années précédentes, tout ça est quand même, effectivement, là où je rejoins Emmanuel, c'est-à-dire que quand on voit la débauche d'énergie qui est, sans mauvais jeu de mots, qui est consacrée à aller chercher des sommes qui sont quand même assez dérisoire finalement. Quand vous mettez bout à bout tous les efforts, et quand je dis tous les efforts, c'est aussi tous les débats, toute l'énergie politique qu'il faut dépenser pour pouvoir convaincre d'aller chercher des petites sommes. Et on voit qu'on est à chaque fois sur des débats qui relèvent du symbole, parce que le débat sur la fiscalité, par exemple, qu'évoquait la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en disant la seule chose qui compte, c'est qu'il y a un sentiment d'effort partagé. Donc vous voyez que dans la majorité, il y a des positions extrêmement diverses, puisqu'effectivement, Gabriel Attal ne dit pas la même chose que Bruno Le Maire. Et que là, ça commence à être compliqué à lire. Mais effectivement, c'est pas ça qui, quoi qu'il arrive...
Les profits de Total, en plus, ils se font à l'étranger, donc sur l'activité, hexagonale, c'est le raffinage, c'est tout. Oui, mais c'est pas des super profits, pour le coup, alors, voilà.
Mathieu Pechberti, un mot là-dessus.
Non, il y avait le débat, quand même, pendant cette audition intéressante, sur, au-delà des besoins budgétaires évidents, Bruno Le Maire se justifiait de dire, finalement, Total fait un effort sur les prix à la pompe, et donc, l'effort va, et c'est plus efficace, vers la demande et le pouvoir d'achat. Certes, et on a bien vu que dans certains groupes, comme chez Total, il y a eu un accent qui a été mis, alors suffisamment ou pas, ça chacun jugera, mais sur les salaires, l'intéressement, la participation, ce qui n'est pas fait dans d'autres groupes qui gagnent aussi beaucoup d'argent par ailleurs. Je pense à Stellantis, par exemple, où là, il y a des critiques de la part des syndicats.
Écoutez François Hollande ce matin qui disait il faut que les entreprises du CAC 40 participent à l'effort de guerre. Pas complètement, mais en partie quand même. C'est la logique même. Écoutez l'ancien président ce matin. Tiens.
Quand il y a des bénéfices très importants, eh bien, il est normal, quand il y a un effort à solliciter, il est normal d'aller demander aux entreprises qui ont fait énormément de profits et qui les ont distribués, de faire leur part de la contribution. S'il n'y a pas cet effort, même s'il ne représente pas la part, ce serait trop simple de dire, suffit de taxer les fortunes et les profits considérables pour qu'on soit débarrassé du déficit. C'est faux. La fiscalité, elle n'a pas simplement qu'un caractère de récupération de recettes. La fiscalité, elle a un facteur de cohésion sociale et nationale. Quand vous demandez des efforts à tous, vous demandez des efforts aux plus riches. Quand vous demandez des efforts à tous, sauf aux plus riches, vous avez un problème qui s'appelle une crise sociale.
Alors très bien, mais en réalité, quelle est la marge de manœuvre réelle du gouvernement quand on sait que Patrick Pouyanné avait déjà menacé fin 2023 de revenir sur le prix plafonné, justement s'il y avait une taxe exceptionnelle qui se mettait en place?
Ce que dit François Hollande est quand même assez juste, même si, attention, ça a été le président du...
ras-le-bol fiscal.
Du ras-le-bol fiscal, l'expression qu'il n'avait pas employée lui, mais c'est Pierre Moscovici qui l'avait employée à l'époque. Ouais. Donc il y avait une très très forte... Il faut faire attention, parce que, effectivement, si on va chercher uniquement des recettes par la fiscalité, là, effectivement, on va tuer l'activité économique. Et si, bon. Donc, mais il voit bien les choses en disant il y a un élément symbolique, on peut pas le nier. Il n'est pas à la hauteur du défi économique et financier qui est celui des comptes publics en France. Et donc la solution, c'est probablement de, s'il y a un effort qui est demandé aux entreprises sous une certaine forme qui dégage le plus de profits, il faut pas que ce soit ciblé sur Total, il faut que ce soit l'ensemble. Alors, est-ce qu'effectivement...
Qui va payer? Alors, voilà, je me demande...
Est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de profits et beaucoup de dividendes distribués? C'est pas faux, ça.
Alors, les profits... Même... les très gros profits, c'est les entreprises qui sont liées aux marchés mondiaux.
C'est ça. Oui, en fait, 75% sont réalisés à l'étranger.
Ouais, les marchés de commodités, donc les marchés de l'énergie, le marché du fret maritime, etc. Où là, vous avez effectivement des prix...
Le luxe, c'est aussi du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger.
Mais concrètement, après, comment vous définissez ces surprofits, là, c'est toujours très compliqué. D'abord, ça fait partie de ces expressions politiques qui n'ont aucun sens économique. Donc,
oui, voilà, mais c'est bien pour ça qu'il y a une mission qui est lancée avec un groupe de travail qui est chargé d'ici à juin de faire des propositions sur la taxation des rentes.
Donc, encore une fois, je ne vois pas très bien le nombre d'entreprises qui vont être concentrées par cette problématique, sachant que vous allez avoir aussi beaucoup d'effets. Vous allez avoir aussi beaucoup d'effets.
En tout cas, plutôt que d'avoir une espèce de vision un peu punitive, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent d'aller revisiter cette proposition qui avait été faite dans le rapport Pisani-Ferry, de dire pour certaines catégories de contribuables, voire pour des entreprises qui dégagent énormément de profits, on avait appelé ça l'ISFR, mais c'était très caricatural, mais on va essayer de pousser leur contribution à la transition écologique et énergétique qui est absolument indispensable pour développer l'économie française.
Bon, en tout cas, pas touche à Total, c'était le message en creux de Bruno Le Maire ce matin. Merci Mathieu qui est venu voir, Mathieu Pelletier. Merci Mathieu, à très vite. Tiens, on va parler des retraites, ça faisait longtemps.
Et oui, avec cette polémique dont on parle depuis quelques jours, le COR, le fameux conseil d'orientation des retraites qui est régulièrement chargé d'éclairer le gouvernement. Alors, le COR est-il trop optimiste dans ses prévisions sur l'avenir du système de retraite? C'est la question.
Bah oui, parce qu'il se trouve le COR se réunissait aujourd'hui et son nouveau patron, l'économiste Gilles Berset, qu'on connaît bien, devait présenter une nouvelle méthodologie pour calculer ses prévisions. Et apparemment, sa méthode rendrait ses prévisions plus sombres, ce qui agace prodigieusement les syndicats. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que par le passé, le COR a eu souvent faux dans ses prévisions? Le compas dans l'œil, pardon de le dire comme ça, quelque part.
Alors, le problème, c'est que le COR... la méthode ancienne, entre guillemets, c'était de bâtir un certain nombre de scénarios qui évitaient au corps...
Beaucoup de scénarios à chaque fois.
Oui, alors beaucoup de scénarios à chaque fois. Mais alors, du coup, ça donnait des interprétations multiples. Je me rappelle le dernier qui a présagé à la réforme des retraites, c'était oui, mais regardez, dans 8 scénarios sur 12,
oui, c'est ça. Il fallait réformer finalement pas. L'anticipation
qu'à terme, le déficit va baisser, etc. Et donc, voilà. Non, le problème, c'est que c'était un outil qui était devenu absolument pas fiable, puisque je vous rappelle qu'en 2017, quand Emmanuel Macron dit finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'une réforme des retraites, c'est parce qu'on a un rapport du COR qui est extrêmement optimiste, et puis que quelques années plus tard, patatras.
Non, quelques mois plus tard.
Alors, même quelques mois, nouveau rapport. Du corps qui vous dit pas du tout, ça va pas bien. Et en plus, des rapports qui changent radicalement de point de vue tous les 6 mois, alors qu'on parle de projections à 50 ou 60 ans, qu'il faut prendre pour ce qu'elles sont, et qui reposent effectivement toujours sur des hypothèses extrêmement théoriques, en fait.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'au fond, on a fait croire pendant ce débat sur la réforme des retraites qui s'est terminée l'année dernière, qui a été quand même assez... On a fait croire qu'il fallait absolument cette réforme pour résoudre le déficit et que on allait régler le problème au moins pour un temps qui nous permettra de rester dans un régime assez stable. Or, on est en train de s'apercevoir qu'évidemment c'était un discours politique, mais que économiquement c'est pas du tout certain. Et donc, parce qu'on a fait, tant qu'on fait une réforme, ce qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire qu'on joue et qu'on la fait pas jusqu'au bout, certains d'ailleurs avaient dit à l'époque, on va pas assez loin. On aurait dû reculer l'âge de la retraite davantage, à 65, revenir à 65, ce qui au fond serait pas catastrophique. C'était le cas avant 1981, la retraite à 65 ans. Or, on vit plus longtemps. Et donc, on est en train de s'apercevoir qu'on a quand même trompé l'opinion publique, si ces prévisions du COR qui montrent une situation dégradée sont confirmées, parce qu'en réalité, on aura probablement besoin d'une nouvelle réforme ou d'un nouvel ajustement plus rapidement qu'on s'y attend.
En général, c'est tout. Enfin, on y revient quasiment tous les ans. Voilà. Mais ceci dit, on a un vrai problème de méthode. En effet, quand on sait que dans chaque rapport, il y a des centaines de pages, des centaines d'hypothèses, grosso modo, 4 manières différentes de compter le déficit, dans chaque convention, 3 hypothèses de taux de chômage, de taux de fécondité et de taux de croissance de la productivité. Enfin, forcément, on alimente tous les points de vue avec ça.
D'ailleurs, l'ambition de Gilles Berset, c'est de resserrer le nombre de scénarios. Lui, il a envie de présenter plutôt un scénario principal. Alors, ce qu'il a aussi...
Mais c'est ça qui ne plaît pas aux syndicats.
Oui, mais...
Qui disent, on explique l'histoire. Les syndicats considèrent qu'on a viré l'ancien patron Monsieur Bra, Pierre-Louis Bra, parce qu'il était, il avait trop tendance à rendre les choses, estimer que les choses n'étaient pas aussi dramatiques que ça finalement. Et qu'on remplacé par Gilles Bessette, considéré comme un proche du pouvoir.
C'est vrai, mais en même temps, Guillaume, Pierre-Louis Lebrun a été justement largement critiqué et même accusé pendant la réforme d'avoir minimisé l'ampleur des déficits.
C'est ça.
Et en ce sens, Gilles Bessette, lui, essaye de se protéger quelque part.
Ouais, mais de toute façon, encore une fois, même si vous choisissez un seul scénario, qui peut dire aujourd'hui, par exemple, pendant des années, on a considéré que quand on faisait des projections démographiques, l'évolution de la démographie était quelque chose d'assez cyclique. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes de faible natalité, des périodes de natalité plus fortes. Là, on a manifestement un monde qui se dessine avec une démographie durablement déclinante. Bon, ça change quand même considérablement les hypothèses. Quel va être l'impact, par exemple, de la productivité sur de l'intelligence artificielle, pardon, sur la productivité. Est-ce qu'on va dans un monde où vous allez avoir un énorme saut de productivité, mais avec du coup énormément de gens qui vont perdre leur emploi? Si le monde de demain, c'est un monde dans lequel la productivité augmente de 2% par an, mais que c'est un monde dans lequel les salariés ne travaillent plus que 25 heures ou 20 heures, vous voyez bien que c'est pas le même
monde. Oui, mais justement, non mais d'accord Emmanuel, mais voilà. on pourrait en ce sens très bien se dire que la seule mesure viable, eh bien, c'est la démographie, faire comme au Danemark, où l'index... où ils indexent les retraites sur l'espérance de vie, et ça, de toute façon, c'est hyper quantifiable, puisque rien n'est plus prévisible, puisque tout est basé sur le nombre de naissances aujourd'hui.
Emmanuel.
D'ailleurs, dans la réforme Touraine, il y avait cette souplesse-là, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée qu'on allait allonger le nombre de trimestres nécessaires de cotisation au fur et à mesure que l'espérance de vie allait allonger, pour qu'en gros, on passe deux tiers de sa vie active à travailler, et puis ensuite, qu'on soit à la retraite. Mais... le non-dit, c'est pas quelque chose de nouveau de toute cette réflexion, c'est qu'au fond, on est peut-être au bout de ce système de pure répartition, voilà, parce qu'on court après, il y a des données économiques,
des données de croissance.
Oui, des données sur la croissance, des données sur la démographie qui ne sont quand même pas bonnes aujourd'hui dans tous les grands pays. On s'aperçoit qu'on a les grands pays occidentaux, on a une démographie, y compris en France, qui longtemps a surnagé en termes démographiques. Là, maintenant, on est en difficulté, et donc c'est vrai que il faudra qu'un jour, peut-être, un gouvernement ait le courage de dire que, sans remettre en cause le grand principe de la répartition, on pourrait y ajouter un étage de capitalisation, c'est-à-dire d'un système où chacun se prémunit sur ce risque retraite, mais cette situation de retraite, par une forme d'épargne. C'est quand même ce que font la plupart des pays, et aujourd'hui, on voit bien que dans ce système où la répartition est non seulement privilégiée mais quasi exclusive, on est toujours en course face au déficit. Voilà.
C'est bien la crainte des syndicats qu'on noircisse le scénario, scénario central pour justifier d'une nouvelle réforme, effectivement.
Pour compléter le tableau, sachant qu'on a un niveau d'épargne qui est absolument considérable.
18%, c'est ça à peu près le taux d'épargne.
Finalement, ce matelas d'épargne, aujourd'hui, il ne sert pas à grand-chose. Et que vous avez... De fait, en plus des Français qui n'ont plus confiance dans l'avenir de leur système de retraite, et que vous avez les moitiés des Français qui ont au moins 67 000 déjà euros d'épargne mis de côté pour préparer leur retraite.
Voilà pour ce dossier des retraites. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des retraites, voyez.
Ça revient.
Ça revient.
Ça nous avait manqué.
Oui.
Il nous reste quelques minutes. On parle de ce sujet qui fait polémique depuis quelques jours à l'Assemblée nationale. On a commencé à en parler hier. Les députés ont commencé à se pencher sur l'examen du test visant à restreindre l'utilisation des fameux PFAS, les polluants éternels, dont on vous parlait en effet hier. Ils ont calmé le jeu avec Seb.
Ils ont voté en fait en première lecture la loi qui permet de freiner l'évolution, l'utilisation, la vente, la commercialisation de produits qui contiennent des fameux PFAS. Et au passage, on a quand même épargné les fameuses poêles Tefal dont on parlait hier, 600 salariés de Tefal devant l'Assemblée nationale. Écoutez ce que disait le député écologiste Charles Fournier aujourd'hui. Bon, on n'a pas réussi à inclure les poêles Tefal, mais enfin, on a quand même réussi à faire monter le débat finalement. Écoutez...
Il y a deux ans, on parlait pas de ce sujet. Donc évidemment, pour nous, c'est une victoire d'avoir voté ce premier article qui interdit dans les cosmétiques, dans les tissus, les vêtements, et puis dans les emballages, le recours au PFAS dans son ensemble. C'est évidemment une victoire. Maintenant, nous pouvons regretter évidemment que certains sujets aient été écartés, et notamment les ustensiles de cuisine. On vous explique qu'on va perdre des emplois. Mais moi, je vous le dis, on peut changer des chaînes de production. Je proposais de laisser 3 ans pour changer les chaînes de production, pour enlever ses revêtements et faire d'autres types de poêles. On continuera de vendre des poêles. Il n'y a pas de raison de supprimer des emplois.
Bon. Alors, de la tambouille, mais enfin, cette histoire. Une minute, Emmanuel.
Et Emmanuel Le Chip nous informe que sa cravate.
Ma cravate est menacée, puisqu'il y a du téflon dans,
de téflon
dans ma cravate.
Ah bon, il faut changer de cravate.
Enfin, votre cravate est menacée. Vous êtes menacé, surtout.
Oui, le mieux, c'est de ne pas mettre de cravate, finalement. Oui, oui.
C'est un combat que je
mènerai. C'est un autre débat.
Toujours. Jusqu'au bout.
Non, mais j'adore, j'adore la tambouille qui consiste à épargner les poils plus folles et puis garder le reste, quoi.
Mais parce que le problème, c'est que. Enfin, je veux dire. On comprend qu'il y ait des combats que les députés veulent mener, etc. Mais vous ne pouvez jamais faire abstraction de toutes les externalités et de toutes les conséquences de vos combats. C'est-à-dire que vous pouvez très bien... On comprend les scientifiques qui concluent que c'est dangereux, etc., et que leur rôle, c'est pas de défendre les intérêts économiques. Mais par contre, quand vous êtes élu, oui, il faut essayer d'agréger tout ça et de trouver des points de compromis. Sachant qu'en plus, là où c'est quand même un joli coup, c'est qu'il faut rappeler que c'est pas que Tefal qui était menacé. Toutes les poils de tous les pays fabriqués partout dans le monde. Et donc, ce qu'on se disait, c'était peut-être que Seb, qui a quand même une capacité bien connue à innover, etc., pouvait trouver des solutions. Bon, c'est peut-être le temps.
Ah, surtout que je vous rappelle que Seb fabrique aussi des poils sans téflon.
Bien sûr. Oui.
30 secondes, allons-en reparler.
Non, juste, moi, je trouve que ce qui vient d'être dit est assez juste. Au fond, j'ai découvert ce sujet, peut-être vous aussi. Moi, j'étais pas au courant. Je me souviens de l'amiante, je me souviens des perturbateurs endocriniens, mais enfin, les PFAS, je connaissais pas.
D'où l'importance de...
Il y a un vrai sujet de santé publique. Ouais. J'ai regardé le site de l'ANSES, l'agence nationale, qui a l'air de prendre les choses en sérieux. Donc, c'est pas un organisme militant, c'est un organisme d'État. Et à partir du moment où il y a un vrai sujet de santé publique, il faut faire quelque chose. On est dans un monde où on ne peut plus ignorer ces questions, même quand on est un acteur économique. Et donc, il faut qu'un groupe comme Tefal, Moulinex, etc., se montre responsable sur ces sujets. Et la bonne solution, c'est effectivement de se donner un temps limité, mais un peu de temps, donc à échéance de 3 ans. Oui, on doit pouvoir, avec l'inventivité, la créativité qui est celle d'un groupe comme celui-là qui fait beaucoup de R&D, trouver les bons matériaux. Mais il faut le faire, on ne peut plus se permettre d'être aveugle sur ça.
Avec un documentaire qui éclaire largement sur le sujet, qui s'appelle Toxic Bodies, que je vous recommande.
Allez, 18h57, merci Manuel, très vite, avec plaisir. Emmanuel Kessler revient dans un quart d'heure, jusqu'à 20h, bien sûr. On continue, et nous on se retrouve dans un instant pour le journal.
Et oui, 20h, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous, à tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors que c'est la grande question du moment, faut-il taxer les rentes ? C'est vrai que Gabriel Attal a demandé des propositions sur le sujet d'ici juin. Ouais, sauf que Bruno Le Maire l'a dit comme ça aujourd'hui au Sénat. Ne venez pas chercher des noises à Total Energy sur ce sujet. Ça serait dommage que Total retire son plafonnement du prix de l'essence à la pompe. On va voir ça, bien sûr, dans un instant. Puis on aura nos experts dans un quart d'heure, ce qu'ils en pensent aussi.
Et oui, alors on va parler aussi des polluants éternels parce que ça y est, l'Assemblée a voté une loi pour limiter la diffusion. On a quand même exclu les poils Tefal du dispositif. Hein. On en parlera dans un instant. Et puis on parlera aussi du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui veut changer de méthode pour définir ses projections. Un changement de méthodologie qui ne plaît pas à tout le monde, notamment aux syndicats.
Tout ça à plus d'autres sujets, qui sera avec nous dans un quart d'heure pour parler de tout ça jusqu'à 20h. Emmanuel Kessler va revenir, bien sûr. Nicolas Marquez du think tank Institut Molinari et le communicant Samuel Botton. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr.
A tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc, ce dossier des PFAS qui nous anime depuis 48 heures. Bonsoir Alexandra. Donc, ça n'a pas traîné. L'Assemblée a adopté la loi qui vise à restreindre et la fabrication et la vente de produits contenant ces fameux PFAS, en épargnant au passage les fameux ustensiles de cuisine. Sauf qu'on sent que le gouvernement avance quand même très très prudemment sur ce sujet, Alexandra.
Alors effectivement, l'exécutif défend sa stratégie européenne pour interdire l'usage de certains PFAS et temporise. Des restrictions seront bien ajoutées dans toutes les réglementations sectorielles européennes dès le mois prochain, au fur et à mesure de l'avancée des travaux scientifiques européens. Et de citer la victoire française quand même obtenue dans le secteur des emballages dans un compromis de mars, mais Roland Lescure le martèle, ce n'est pas une question de fond, mais de forme. Selon le ministre de l'Industrie, je vous propose de l'écouter.
Évidemment, le gouvernement souhaite légiférer sur les PFAS, souhaite interdire les produits dangereux, souhaite privilégier la santé publique. Nous considérons que ce sera bien mieux fait dans un cadre européen qui est déjà en cours, et qui est en cours du fait de la France d'ailleurs, qui pousse pour accélérer les procédures, d'évaluation scientifique de la dangerosité des produits. Certains sont dangereux et doivent être interdits, d'ailleurs certains le sont déjà au niveau européen, d'autres ne le sont pas et devront donc être autorisés. Et donc c'est essentiellement un écart de méthode qui aujourd'hui oppose le gouvernement à, je l'ai bien vu, la large majorité de l'Assemblée nationale.
Au niveau national, il est aussi prévu d'accélérer la production de valeurs toxicologiques de référence et la fixation de valeurs limites d'émissions, ce qui pourrait permettre des arrêtés préfectoraux immédiats en cas de rejet excessif constaté. Reste, Guillaume, que là aussi, la fixation de limites acceptables promet d'être âprement débattue, les PFAS étant jugés potentiellement nocifs, même à très faible dose.
Voilà pour ces polluants éternels, dossier dont on parlera bien sûr avec nos experts ce soir jusqu'à 20h. Merci beaucoup Alexandra. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, le gouvernement, je vous disais, continue de s'activer pour trouver quelques milliards de plus. Vous savez que l'une des pistes envisagées, c'est d'aller taxer les rentes. Bah, justement, Bruno Le Maire en a reparlé indirectement au Sénat ce matin. Le message de fond, c'est ne venez pas redemander des comptes à Total Energy. Écoutez.
C'est moi-même qui ai demandé le plafonnement à 1,99€ à Total Energy du litre de carburant. Je pense que c'est très important de le maintenir. C'est moi-même qui ai demandé la prolongation en 2024. C'est une sécurité absolument essentielle pour les automobilistes et en particulier pour les zones rurales. Je souhaite évidemment que ce soit maintenu et que nous ne prenions aucune décision qui puisse remettre en cause ce plafonnement.
Voilà Bruno Le Maire ce matin au Sénat. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir. C'est ça le message, pas touche à Total, c'est ça le message de fond finalement.
Oui, 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 c'était assez étonnant d'ailleurs dans la forme à quel point le ministre de l'économie Bruno Le Maire, on va dire, préservait, j'ai pas envie de dire défendait, mais préservait Total Energy qui était, dans le cadre d'une audition au Sénat, en tout cas un petit peu titillé sur les sujets climatiques. Alors clairement, il met en avant le fait que Total est un groupe français, il n'y a pas beaucoup de majors pétrolières françaises dans le monde, il n'y en a qu'une, voilà, ouais, depuis plusieurs décennies, face à des Américains, aux pays du Moyen-Orient ou aux Chinois. Et lui met en avant évidemment le rôle important de Total Energy. Il compte sur Total Energy pour investir dans les énergies renouvelables. Je vous rappelle que l'électricien EDF maintenant est 100% public et a déjà du mal à investir dans le parc nucléaire. Il compte aussi sur Total Energy pour acheter, pour signer des contrats justement avec EDF et donc participer de manière indirecte au financement du futur programme nucléaire. Et il compte évidemment, il l'a dit, on vient de l'entendre, sur Total pour faire des efforts financiers afin de limiter, de plafonner les prix de l'essence et donc faire un geste pour le pouvoir d'achat des Français. Donc une sorte de jeu un petit peu win-win, comme on dit. Oui, alors win-win, ou en tout cas chacun y trouve son intérêt, entre Bruno Le Maire qui évite d'avoir à faire un effort budgétaire et donc demande à Total de faire un effort, qui en échange essaye de redorer son blason, parce que vous savez, Total souffre quand même d'une image, oui, assez difficile, notamment auprès des étudiants, mais dans la population, pour son image de pétrolier pollueur. Donc finalement, le ministre de l'économie à la rescousse de Total Energy.
Et voilà, merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Une information BFM Business, la filiale française de Body Shop, on s'y attendait, a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Paris. Filiale qui emploie aujourd'hui 260 salariés. Si le sujet vous intéresse, vous retrouvez plus d'infos sur notre site bfmbusiness.com. Et puis, il va y avoir un nouveau plan de départ volontaire chez Sanofi, encore dans la recherche et développement. Plus de 300 postes sont concernés. Parce que le groupe l'explique, désormais, sa priorité, c'est plus le cancer, c'est l'immunologie. Hélène Cornet.
C'est un vrai virage stratégique. Sanofi stoppe la plupart de ses projets en cours dans l'oncologie, un domaine thérapeutique très gourmand en investissement, plus d'1 milliard d'euros l'an dernier, où le laboratoire n'a pas rencontré pour le moment beaucoup de succès, et même plutôt des échecs, comme le traitement expérimental contre le cancer du sein. La marche était trop haute pour rattraper ses concurrents. Sanofi préfère concentrer ses investissements dans l'immunologie, où il a pour ambition de devenir leader mondial. Une nouvelle étape qui implique de prendre des décisions fortes, reconnaît le groupe. 330 postes de chercheurs vont être supprimés. Un nouveau plan de départ volontaire, le troisième depuis 2019, qui ne passe pas auprès des syndicats. Il dénonce un énième changement de cap et regrette qu'on ne laisse pas à la recherche le temps long nécessaire. Plus globalement, il s'inquiète de l'avenir de la R&D chez Sanofi, dont les effectifs ont fondu de moitié en 10 ans.
Hélène Cornet, côté entreprise toujours, ça se présente mal pour Vodafone qui veut fusionner avec la holding de l'opérateur Three UK. L'autorité britannique de la concurrence ouvre une enquête approfondie sur cette opération. Elle craint que tout ça ne débouche sur des hausses de prix dans les télécoms du côté de la Grande-Bretagne. Et puis, figurez-vous qu'en France, l'État est à la traîne sur l'utilisation de l'IA pour les services publics. C'est ce que dit un rapport du Sénat qui est sorti aujourd'hui. Théoriquement, ça devrait faire gagner du temps et de l'argent, mais on est à la ramasse totale apparemment. Nathan Cocampo.
Détecter une piscine non déclarée sur le territoire grâce à des satellites. Voilà l'une des rares utilisations les plus abouties aujourd'hui de l'IA générative par les administrations fiscales. Les sénateurs saluent un succès incontestable pour un dispositif de 24 millions d'euros déjà rentabilisé. Autre projet encourageant pour les sénateurs, l'IA-mandement, un outil d'IA qui permet au fisc d'automatiser le traitement d'informations légales et ce, avec la même qualité qu'un humain spécialiste. Le problème, c'est que mis à part ces exemples, les chatbots utilisés par les administrations fiscales sont jugées assez superficielles par les sénateurs qui pointent un accès limité aux données. Pour accélérer le développement de l'IA dans les services publics, il faut plus de moyens, pointent les sénateurs. Humains d'abord, avec plus de spécialistes, des data scientists trop peu nombreux aujourd'hui, seulement une dizaine au fisc. Technique ensuite, aujourd'hui les outils sont très loin d'être à la pointe de la technologie. Financier enfin, selon le dernier rapport du comité IA du gouvernement, l'État devrait investir 5 milliards d'euros par an pour que la France reste dans la course à l'intérieur. Intelligence artificielle.
Eh oui, il faut des moyens, c'est comme partout. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business, à 19h09, on retourne sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance, avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, journée quasiment pour rien, puisque le CAC 40 a terminé à l'équilibre, 8151 points ce soir. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Ça a l'air de s'agiter un peu plus à Wall Street là.
Ah oui, vous avez même un S&P 500 qui était à 10 points de son record historique. Nette surperformance de Wall Street, trois indices américains qui gagnent entre 0,5 et 0,8%. Hier, Jerome Powell qui était dans une université à Stanford et qui a dit, bon certes, les problèmes du réchauffement climatique, c'est pas mon problème, c'est pas le problème de la Fed, mais ça fait pas réagir les marchés, ce qui fait surtout réagir les marchés, c'est qu'il a dit que même s'il y avait des indicateurs qui étaient meilleurs que prévu, donc plus solides qu'attendus ces derniers jours aux États-Unis, ça ne changeait pas le tableau d'ensemble. Sous-entendu, vous inquiétez pas, les baisses de taux, les quatre baisses qu'on a annoncées, elles seront toujours là pour cette année, donc ça rassure le marché, l'obligataire qui se détend très nettement. Et puis dans le même temps, vous avez un Nasdaq qui surperforme très clairement parce que vous avez Nvidia qui reprend quasiment 1%. Vous savez qu'Nvidia sous-traite auprès de TSMC, qu'il y a eu un séisme à Taïwan, mais TSMC a dit, ça va, on va gérer. Et aujourd'hui, Nvidia, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement. Donc le marché est rassuré par rapport à cela. Et puis une autre valeur qui fait l'actualité aujourd'hui à Wall Street, c'est Lévi-Strauss, avec bien sûr les jeans. 15% de progression, très belle séance pour Lévi-Strauss, avec un gros travail sur les coûts qui a été opéré. Donc par rapport à cela, le groupe revoit à la hausse ses perspectives pour cette année. Ça rassure un petit peu parce que c'est compliqué dans le secteur de l'habillement. Ouais. On se souvient qu'en début de semaine, la maison mère de Calvin Klein et de Tommy Hilfiger avait revu à la baisse ses objectifs. Gap également, c'est très compliqué. Donc là, c'est un acteur qui sort du lot et c'est salué à Wall Street.
Et oui, mais c'est Lévis, que voulez-vous ? Voilà. L'éternel Lévis, voilà, qui rôdait toujours. Merci beaucoup Étienne Braque avec nous sur BFM Business, bien évidemment. 19h11, on revient avec Audrey Tcherkov dans un instant et nos experts. Beaucoup de choses encore ce soir. Taxes lentes, mais Bruno Le Maire a dit pas touche à Total. Le corps qui veut durcir les scénarios concernant l'évolution des régimes de retraite et puis plein de choses à voir avec vous. Les PIFAS, bien sûr. On a adopté une loi pour freiner leur diffusion, mais on a épargné les poils Tefal, donc tout n'est pas perdu. Tout ça, plus d'autres choses jusqu'à 20h, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Bien sûr, avec nous jusqu'à 20h. Et nos experts qui sont là, Emmanuel Kessler est revenu.
Bonsoir.
Rebonsoir Emmanuel, journaliste économique. Nicolas Marquez. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Directeur général du think tank de l'Institut Molinari. Puis Samuel Botton, expert en communication.
Bonsoir.
Bonsoir Samuel. Merci messieurs d'être là pour commenter l'actu qui est encore très... Même avant les vacances, oui, il se passe des choses. Et c'est tant mieux. Et ce qui nous intéresse encore et toujours, c'est ce gouvernement qui cherche des milliards supplémentaires, Audrey, évidemment.
Et oui, Gabriel Attal a reçu ce matin le rapporteur du budget, Jean-René Cazenave, pour installer la mission spéciale qui lui a été confiée sur la taxation des fameuses rentes. Alors, il faudra faire remonter des propositions d'ici le mois de juin. Mais Bruno Le Maire, de son côté, l'a encore redit ce matin lors d'une audition devant le Sénat, pas touche à Total Énergie. On l'écoute tout de suite et on en débat ensuite.
C'est moi-même qui ai demandé le plafonnement à 1,99€ à Total Énergie du litre de carburant. Je pense que c'est très important de le maintenir. C'est moi-même qui ai demandé la prolongation en 2024. C'est une sécurité absolument essentielle pour les automobilistes et en particulier pour les zones rurales. Je souhaite évidemment que ce soit maintenu et que nous ne prenions aucune décision qui puisse remettre en cause ce plafonnement.
Bon, c'est le petit coup d'autopromo de Bruno Le Maire. Ceci dit, le gouvernement a-t-il réellement des marges de manœuvre? Quand on sait que Patrick Pouyanné, fin 2023, avait menacé de revenir sur le prix plafonné à la pompe s'il y avait une taxe exceptionnelle qui se mettait en place, Nicolas Molinari.
Oui, alors, d'abord, première chose, il faut rappeler que les recettes publiques, elles augmentent de façon très significative, parce que il n'y a jamais eu autant de recettes publiques. Elles ont progressé en moyenne de 35 milliards par an depuis 2017.
Oui.
Depuis 2019, elles ont progressé de 42 milliards par an. Et donc, on manque pas de recettes. Hein. Les recettes, elles ne cessent de progresser. En 45 ans, j'ai trouvé seulement deux baisses. C'était en 2009, c'était la crise, et en 2020. Donc là, le sujet, c'est... la taxation des super profits et des rentes inframarginales. Mmh, oui. C'est un sujet ultra technique. Il s'agit de, pour le gouvernement, de taxer les énergéticiens.
Énergéticiens,
l'électricité, ouais. Et les compagnies pétrolières. Ouais. Ils ont déjà mis en place un mécanisme pour l'électricité qui était ultra complexe, qui, comme tous ces mécanismes ultra complexes, n'a pas donné le résultat escompté.
Enfin, juste, non mais pardon Nicolas, mais en fait, à la base, ce mécanisme de taxe sur les... sur la
rente inframarginale.
Rente inframarginale devait faire que le gouvernement devait récolter plusieurs dizaines de milliards d'euros et on a récupéré quelques centaines de millions. Mais pourquoi ? Parce que, justement, Bruno Le Maire a mis en place plein d'exceptions à la règle et des exemptions dans tous les sens. Non, mais c'est ça qui était compliqué.
Le vrai bon mécanisme de taxation, c'est l'impôt sur les sociétés. Et ça fonctionne très bien. Et quand vous avez des profits plus significatifs, l'IS, sans rien changer, vous donne un rendement très significatif.
Mais sauf quand les entreprises font 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger.
Et sauf quand les entreprises font 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger.
Ce qui est le cas de Total.
Ou Total paie l'essentiel de sa fiscalité à l'étranger. Parce qu'en fait, la rente pétrolière,
oui,
elle est déjà payée par les pays producteurs. Elle est déjà touchée par les pays producteurs. Et donc, si je vous fais un parallèle, nous, on taxe beaucoup notre tissu industriel avec nos impôts de production. Et dans le pétrole, les pays producteurs de pétrole taxent beaucoup ceux qui font l'extraction avec toute une série de taxes et de droits à forer. Donc, en fait, pour moi, c'est de l'affichage. Ils vont conclure qu'ils vont modifier le dispositif à la marge. Il ne rapportera pas beaucoup plus d'argent parce que ces taxations spécifiques, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Oui. Et les vraies recettes de Total, des producteurs d'électricité, elles arriveront par le canal standard qui est l'impôt sur les sociétés.
Oui.
Et après tout, c'est pas gênant parce que l'impôt sur les sociétés existe quand il y a des profits, ça finance les finances publiques.
Alors, l'argent rentre.
Moi, je ne partage pas tout à fait ce que vous dites.
Emmanuel.
Je pense qu'il y a quand même un problème de recette puisque on est bien parti. L'équation budgétaire inextricable dans laquelle se trouve le gouvernement, elle vient bien du fait de la dégradation des comptes publics sur l'année 2023, puisqu'on a eu un déficit qui était à 5,5 et non pas à 4,9% du PIB, parce que les recettes, non pas qu'elles, il n'y a pas de recettes, mais elles ont été moins fortes que estimées par le gouvernement.
Moins de recettes fiscales.
Moins de recettes fiscales. Et notamment parce que la croissance a été plus faible, t'es pas au rendez-vous, moins d'investissement des entreprises, la machine économique a moins marché. Donc, vous avez aujourd'hui une équation budgétaire qui impose ou bien de faire des économies dans les dépenses, et précisément, ce qui est navrant, c'est qu'on s'est jeté, comme on le fait depuis 40 ans dans la politique française, sur la question des impôts avant de réfléchir à la question des dépenses. Donc il y a un vrai sujet de dépenses, et puis marginalement, il y a un sujet de comment est-ce qu'on fait repartir les recettes. Parce que finalement, Emmanuel Macron nous a dit pendant des mois et des mois que c'est la croissance qui allait résoudre notre problème de finances publiques, parce que justement, par la croissance, on augmente les recettes, sauf que la croissance, elle n'est pas au rendez-vous et qu'en 2024, elle sera 1% et non pas 1,4% comme avait cru l'espérer le gouvernement.
Samuel, est-ce qu'il a pas raison ? Il a raison, Bruno Le Maire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher des crosses à Total pour que ce dernier retire le dispositif de plafonnement, tout ça pour récupérer quelques millions ? Ce qui arrange quand même bien le consommateur et accessoirement le gouvernement dans cette histoire.
Bruno Le Maire, au même titre que le Premier ministre, il est dans un jeu d'équilibriste. Moi, j'ai rien à retenir de cette séquence dans la mesure où, encore une fois, rien ne se passera avant les européennes. Alors c'est bien d'avoir une commission qui va réfléchir, qui va discuter. Une commission qui est quand même très partisane et plutôt orientée côté gouvernement, puisque vous avez Horizon, vous avez Renaissance et quelques autres. J'ai pas forcément vu, mais je dis peut-être une bêtise, de partis qui représentaient la gauche. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, en vous écoutant parler, ça m'a amené à une réflexion, c'est de se dire que bon, on continue de payer les aufiers du Covid. Le gouvernement a été là, a soutenu, c'est très bien. La croissance est moins forte que prévu, parce que je pense qu'il y a eu un problème de planification et que personne n'a anticipé les années flattes qui allaient suivre le regain d'activité. Mmh. Il y a beaucoup de secteurs, le voyage, l'événementiel, la restauration, qui ont connu un vrai boom au sortir des confinements, parce qu'il y avait une vraie demande. Sauf qu'à un moment, vous arrivez à un retour à la normale. Je vous dis une bêtise, par exemple.
En l'instant présent, il fallait éviter de laisser dépérir des
pans entiers
de l'industrie.
Mais quelqu'un qui organise un mariage, alors c'est bien, vous avez eu plein de mariages qui ont été décalés, qui ont tous eu lieu en 2023. Sauf qu'après, en 2024, vous revenez à la normale et peut-être même un peu à la baisse, et c'est applicable aussi pour d'autres corps de métier. Donc c'est ce qui peut aussi expliquer une baisse de recettes. Sur le reste, là où je m'interroge, donc Gabriel Attal qui nous dit « je ne veux pas toucher à l'épargne des Français ». Dans le contexte actuel, j'ai tendance à penser que l'épargne, c'est une vieille chimère. Le livret A, l'assurance vie, bon ok, mais ça n'a jamais été forcément le problème central. Et enfin, le dernier point, c'est que j'ai un doute sur la temporalité de l'annonce et sur la mise en place de l'exécution. Encore une fois, on est en train de réfléchir à court terme, et j'ai aucun souci avec ça. Moi-même, je le fais très souvent, parce qu'il faut aussi traiter les situations qui sont devant nous. Mais il n'y a aucune planification à
le faire. Oui, alors, sauf que quand même, sur le calendrier, Samuel, le groupe mis en place, chargé de cette mission d'étude sur la taxation des rentes, est censé faire des propositions à partir du mois de juin. Maintenant, on comprend en effet que c'est un coup politique, puisque c'est un pas, en réalité, vers les oppositions, et c'est un projet qui est censé solidifier, enfin, participer à la solidification de la majorité.
Ce débat-là. Parce que ça ne sera pas tranché, et on va continuer à étirer le problème autant que possible, parce que une élection chasse l'autre. Et
oui, moment, enfin, d'accord, mais à partir du moment où on sait que, un, on ne va pas taxer ni le travail, deux, on ne va pas taxer le capital, on ne va pas non plus taxer les super.
Bah voilà, exactement. Oui, ça fait un peu slogan, cette histoire de commission pour taxer les rentes, parce que qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Pas se lancer dans ce sujet-là maintenant, j'entends vos interrogations, mais.
Qui est rentier aujourd'hui en économie? Non, on ne peut pas dire que les entreprises françaises vivent sur des rentes, il y en a qui.
Alors, on dit même que EDF est rentier, vu le niveau d'endettement, je ne suis pas sûr.
Bah, exactement, quand on voit c'est 30 ou 40 milliards, c'est ça l'endettement d'EDF. Donc, l'idée de rente dans le monde dans lequel on est, où il y a besoin de tellement d'investissements, me paraît absurde. Après qu'on aille inciter des entreprises qui rachètent leurs propres actions à davantage investir.
Alors, c'est une piste intéressante, parce que le rachat d'actions a atteint des records historiques.
Exactement. Et là, on sent bien que c'est une opération qui est purement financière et qui n'a pas d'efficacité économique. Donc, je pense que c'est plutôt vers ce type d'incitation qu'il faut aller.
Nicolas Marques.
Oui, je ne suis pas sûr, parce que le rachat d'actions, ça peut avoir une certaine logique. Si vous n'avez plus de projet à développer, alors c'est comme les dividendes, vous redistribuez l'argent
Nicolas, pardon, quand on regarde les entreprises qui procèdent le plus au rachat d'actions, sur le podium, on voit Total. Donc Total n'aurait plus aucun projet d'avenir.
Mais oui, parce que
vu l'ampleur de la transition.
Mais Total, son business model d'origine...
C'est le pétrole.
C'est le pétrole.
Et on a encore besoin de pétrole.
On sait qu'on va en forêt, mais qu'on va en forêt moins.
Oui, enfin, les gens qui produisaient des cigarettes, les gens qui produisaient de l'amiante se sont adaptés.
Et en termes de transition, ils sont en train de s'adapter, mais peut-être pas assez vite. Et donc, c'est pas aberrant d'un point de vue stratégie de redistribuer des dividendes ou de faire leur rachat d'actions, malheureusement.
Qu'est-ce qu'une rente? On va pas se lancer dans ce débat-là maintenant, parce qu'on y mettrait des heures.
On en reparlera.
On parlait des retraites, ça faisait longtemps.
Avec cette polémique dont on parle depuis quelques jours, le COR, le fameux conseil d'orientation des retraites, qui est régulièrement chargé d'éclairer le gouvernement, est-il trop optimiste dans ses prévisions sur l'avenir du système de retraite?
Aristo, qui avait une réunion du COR aujourd'hui avec son nouveau patron, c'est l'économiste Gilles Berset qu'on connaît bien ici, devait présenter une nouvelle méthodologie pour calculer ses prévisions. Et apparemment, c'est une méthodologie qui rendrait les prévisions plus sombres. Ça agace les syndicats, mais est-ce que l'histoire ne nous a pas prouvé que le COR, parfois, avait un petit peu le compas dans l'œil? Est-ce qu'il faut revoir cette méthodologie, Nicolas?
Le COR avait le compas dans l'œil. Le rapport du COR, qui est attendu tous les ans, c'est un peu l'auberge espagnole.
Oui.
Si vous voulez dire
tout
va bien, madame la marquise, vous avez tous les éléments.
Non, ils disent pas ça comme ça.
Alors,
attention,
c'est le rapport du corps qui et si vous vouliez décrire la réalité, c'était entre les lignes. Il fallait comprendre, pour les connaisseurs, les notes de bas de page. Un exemple, le rapport du corps disait toujours oui, on est en déficit d'un ou deux milliards, mais c'est anecdotique, ou on est en excédent d'un ou deux milliards. Mais quand on calcule bien, ce qu'on a fait plusieurs fois à Molinari, en intégrant les retraites des fonctionnaires qui sont le vrai problème,
oui.
Le déficit, c'était pas l'épaisseur du trait, c'était entre 40 et 50 milliards par an. Donc il y avait un vrai problème de transparence, parce que le corps, qui était une bonne idée, ça avait été créé par Lionel Jospin pour avoir un débat nourri, était devenu quelque chose qui endormait le débat. Donc là, il y a Gilbert Sept.
Certains écrivent noyauté par les syndicats. Je ne sais pas si vous le reprenez à votre compte, ça,
oui,
ou pas.
Alors, moi, je ne partage pas l'opposition anti-syndicat, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand vous regardez les syndicats, ils gèrent très bien la GIRC-ARRCO, ils n'ont jamais fait de déficit, ils ont des réserves. Et l'État n'a toujours pas compris qu'il faudrait que tous les régimes de retraite aient des points et des réserves.
Oui, enfin, là, c'est autre chose, parce que Pierre-Louis Lebras, l'ancien président du Corps, a été accusé pendant la réforme des retraites, justement, de minimiser l'ampleur des déficits.
Oui, on est bien d'accord, et c'est une un problème quand vous avez une instance qui est censée éclairer le débat, qui vous embrouille le débat.
Oui.
Quand Pierre-Louis Lebras disait qu'il n'y avait pas de déficit ou qu'il y avait un ou deux milliards de déficit, nous, on en calculait plus de 45. Oui. Donc, il y avait un vrai problème de transparence. Il faut espérer que Gilbert Sept va aider à traiter ça. Mais pour revenir sur les syndicats, il faut pas... Quand on regarde les syndicats, quand ils sont à la manœuvre, quand ils pilotent la GIRC-ARRCO, ils font ça très bien.
Avec le patronat.
Quand on regarde l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, qui est le plus gros fonds de pension français, avec 45 milliards d'euros, c'est co-géré avec la CGT, Sud, tous les syndicats, ils font ça très bien. Le vrai sujet, c'est que notre État est incapable de mettre les syndicats en position de gestion. Quand les syndicats sont en position de responsabilité, ils gèrent bien. Et en matière de retraite, malheureusement, quand l'État est en position de responsabilité, il gère mal. Il y a deux impairs, il y a deux impasses que fait
vous
l'État.
Vous généralisez ça comme ça, à ce point.
Oui, voilà, et clairement, sur les fonctionnaires, ça fait depuis 1853 que l'État a démantelé ses caisses de retraite. Mais c'est aberrant. On a un grand pays, la France, où il n'y a même pas de caisse de retraite pour les fonctionnaires, et les retraites des fonctionnaires sont financées par le budget. Mais vous allez aux Pays-Bas, les retraites des fonctionnaires, elles sont financées par les dividendes et les rachats d'actions dont on parlait tout à l'heure.
Ce que ça prouve au-delà des chiffres et des polémiques sur le corps, d'abord, c'est quand même bien qu'il y ait un instrument qui essaye d'objectiver un peu avec, il y a quand même au sein du corps, même si il est piloté par des syndicats, mais il y a quand même des experts, des gens qui ont une méthodologie assez scientifique. Et après, évidemment, ça donne lieu à l'interprétation, mais je pense que c'est bien qu'il y ait cet organisme de référence qui nous donne quand même des indications. Mais on voit bien que la question de fond, c'est que le financement des retraites en France est... en particulier des retraites versées aux fonctionnaires par l'État, qui pèsent beaucoup dans le déficit public. Ça, il y a eu plusieurs études qui le montrent, notamment un rapport l'été dernier qui avait été fait par un ancien directeur du budget, Jean-Pascal Beaufray, et qui est un peu masqué. Voilà, c'est que le problème du financement des retraites en France n'est toujours pas résolu. Et donc, on a un peu trompé les Français en leur disant « il faut absolument faire cette réforme, la retraite, on va la passer de 62 à 64, ça va être formidable, etc.
Ouais. »
Bon, et vous allez voir, vous allez être tranquille, on baissera pas les pensions, ce sera vous allez faire un effort et tout ça va être résolu. Et ce qu'on est en train de voir mois après mois, et qui plus est la situation démographique ne va pas arranger les choses, c'est que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, et que dès 2027, le président de la République qui sera élu et qui succédera à Emmanuel Macron, devra s'attaquer à une nouvelle réforme des retraites avec le poids de tension sociale que cela provoquera.
Samuel, parce que si on en revient à cette question d'un seul scénario, ça évitera quand même que chacun y aille de son interprétation, parce que je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a des centaines de pages dans le rapport du corps, des centaines d'hypothèses, et quatre manières différentes de compter le déficit.
Il faut resserrer, alors peut-être pas une solution, avoir des projections sur une, deux, trois, mais pas au-delà. Donc ça va être le rôle de Gilbert Sept, on va lui accorder au moins le bénéfice du doute et le laisser arriver. Après, pour essayer d'imager un peu la chose, ça
m'appelle... Même trois scénarios, pardon. Mmh. Enfin, je veux dire...
C'est le consultant
scénario bas, scénario haut, enfin...
On en revient au travail de consultant, et ça me rappelle la relation que j'ai avec mon comptable. Quand je lui demande quelque chose, il me fait 4, 5, 6 projections différentes, mais à aucun moment... j'ai la finalité du problème ou le bon conseil qui va
c'est
avec.
C'est pour ça que l'intelligence artificielle va remplacer les comptables.
J'espère qu'on gardera quand même un peu du temps.
C'est l'avenir.
Ça, pour le coup, on va le garder
qui
pour un peu plus tard.
Une solution toute faite en...
Tout à fait. Donc, en fait, on a un problème de lisibilité et on s'est retrouvé avec des conclusions qui étaient floues et qui ont été appliquées sur une réforme qui est illisible. Ça, c'est un problème. Et après, il faut remettre de l'ordre. Et encore une fois, toujours la même chose. Le court terme, le long terme, faire la synthèse. C'est ce qui n'a pas été fait ces dernières années, de toute évidence. Et puis après, à un moment, on va... On va voir ce qui peut se passer. Il y a des tests qui ont été faits sur des indicateurs 2005-2019. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces standards-là. Donc, il va falloir remettre
la... Parce qu'en plus, on a un effondrement de la productivité, Nicolas.
Oui, on a un effondrement de la productivité. Oui. Et ça fait le lien avec le sujet qu'on avait avant. On a des gisements d'économies majeurs en matière de retraite sans baisser les prestations. Parce que, clairement, si, par exemple, l'État... pour ses personnels, l'État en tant qu'employeur provisionnait les retraites de ses fonctionnaires comme le fait le Sénat, oui. Il économisait 30 milliards par an. S'il était un petit peu plus vertueux, et s'il faisait comme la Banque de France, qui provisionne intégralement les retraites de ses fonctionnaires, il économiserait 50 milliards par an.
Mais aujourd'hui, il ne peut plus le faire, compte tenu de la situation des déficits.
Si, il peut le faire. Parce que d'autres pays l'ont fait. Québec l'a fait dans les décennies écoulées. Il s'agit de provisionner. Et l'État, il s'est emprunté. Il sait émettre de la dette.
Enfin, il sait dépenser aussi, puisque il y a une explosion des dépenses de fonctionnement.
Que si l'État emprunte à long terme, le coût de sa dette sera beaucoup moins élevé et il va créer de la valeur. Il sait placer le fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Lionel Jospin en même temps que le Corps. C'est gérer ça. C'est ce qu'il faut faire.
Allez, projet, un rapport du Corps, ça sera en juin prochain. Ça va donner lieu à pas mal d'articles et de spéculations ici, là, 19h32 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, on vous parle tout de suite du sujet qui fait polémique depuis quelques jours avec Nicolas Marques, Emmanuel Kessler et Samuel Botton à l'Assemblée nationale. Depuis quelques jours, il y a ce débat sur les PFAS. Les députés ont commencé à se pencher sur l'examen du test visant à restreindre leurs utilisations, les polluants éternels, dont on vous parlait d'ailleurs hier. Oui. Donc ils ont réussi à calmer le jeu avec Seb.
Ah, les députés qui ont voté en première lecture, ça y est, la loi qui va restreindre l'utilisation de ces PFAS, qui va épargner, c'est une des manœuvres du jour, les fameuses poêles Tefal du groupe Seb, avec 600 salariés, avaient manifesté hier devant l'Assemblée. Écoutez ce que disait le député écologiste Charles Fournier aujourd'hui, dit bon, bah, les poêles Tefal sont passées entre les mailles du filet, mais au moins on a réussi à sensibiliser l'opinion sur le sujet. Écoutez.
Il y a 2 ans, on ne parlait pas de ce sujet. Donc évidemment, pour nous, c'est une victoire d'avoir voté ce premier article qui interdit dans les cosmétiques, dans les tissus, les vêtements, et puis dans les emballages, le recours au PFAS dans son ensemble. C'est évidemment une victoire. Maintenant, nous pouvons regretter évidemment que certains sujets aient été écartés, et notamment les ustensiles de cuisine. On vous explique qu'on va perdre des emplois. Mais moi, je vous le dis, on peut changer les chaînes de production. Je proposais de laisser 3 ans pour changer les chaînes de production, pour enlever ses revêtements et faire d'autres types de poêles. On continuera de vendre des poêles. Il n'y a pas de raison de supprimer des emplois.
Non, mais c'est ça, parce que dans le calendrier du texte initial, l'interdiction, elle commençait à partir de 2025, elle jouait jusqu'à 2027 avec des dérogations pour certains produits. C'est quand même dommage que le texte n'ait pas été voté dans sa totalité, non, Samuel Botton ?
Il y a eu un gros lobbying de Seb, puisqu'ils ont même payé les ouvriers, enfin les cars de transport pour...
Menacé certains employés, justement, s'ils n'allaient pas manifester.
Ouais, donc c'est un peu limite. Ouais. C'est même un peu limite... Ouais. C'est pas toujours comme ça qu'on a un axe. Quand on voit que les dirigeants s'allient avec les salariés pour défendre leurs propres intérêts et que parfois ils sont en conflit pour d'autres choses, bon, c'était un peu limite comme manœuvre de lobbying.
Ce qui est un petit peu limite aussi, c'est le patron, le DG hier.
C'est une bonne manœuvre de lobbying, du coup.
Comment ?
Mais c'est une bonne manœuvre de lobbying.
Oui, c'est une bonne manœuvre de lobbying, mais on a l'impression que les salariés sont un peu instrumentalisés à l'excès.
Et le DG qui est au milieu de la foule hier des salariés qui brandissait tout de suite d'entrée de jeu la menace de l'emploi et 3000 emplois se ressort dessus.
En plus, voilà, on a le sentiment qu'ils ont été un peu instrumentalisés. Mais néanmoins, on peut comprendre qu'ils aient besoin d'un délai pour s'adapter. À partir du moment où ce délai est court, et on peut imaginer qu'un groupe qui consacre beaucoup à l'innovation, beaucoup à la R&D, et c'est d'ailleurs comme ça, c'est un vrai succès français, le groupe
2027,
dans le monde entier.
3 ans, est-ce que voilà, c'est court 3 ans pour s'adapter?
C'est beaucoup trop court. Moi, je pense qu'il faut...
Mais attendez, je vous rappelle que le groupe SEG produit aussi des poêles sans téflon.
Moi, j'ai découvert cette histoire des PFAS. Je ne savais même pas ce que c'était. Le mot PFAS, je me souviens, dans mon enfance, il y avait les PFIS. C'était les poissonneurs de PIF Gadget.
Mais c'est
une époque nostalgique.
Mais PFAS, c'était un mot que je ne connaissais pas. Bon, mais visiblement, et d'ailleurs, c'est bizarre que ça revienne dans le débat public que maintenant, il y a un vrai sujet de santé publique autour, peut-être qu'il est un peu exagéré, mais l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la santé publique, pointe quand même un vrai sujet. Donc il faut le traiter. Et les entreprises ne peuvent pas s'exonérer de l'effort de transition.
Non, mais le problème est justement sur le fait que vous ne le saviez pas, parce qu'il n'y a aucune transparence sur ces produits-là.
Alors, parce qu'il y a peut-être un manque de pédagogie qui est fait. Moi, je vais peut-être même être un peu plus dur que Emmanuel sur ce sujet. J'ai l'impression que ça a été traité complètement à l'arrache. C'est effectivement sorti de nulle part. On découvre qu'il y a un vote et que le tout s'est orchestré en moins d'une semaine. Alors, sur la question des emplois, j'entends. Le problème que j'ai, c'est que si vous faites, par exemple, un parallèle avec les directives européennes sur la fin des véhicules thermiques, même si on est encore trop court, vous avez quand même une marge de préparation qui est relativement conséquente. Là, en 3 ans, excusez-moi de le dire, vous ne ferez rien. Après, pour revenir sur...
Mais ne me dites pas qu'ils y réfléchissent pas depuis un certain temps.
Voilà, ils y réfléchissent beaucoup de choses, mais après, c'est de la même manière qu'il faut remplacer toute une flotte de voitures, il va falloir remplacer toute une flotte.
Non, mais enfin, ils sont menacés depuis plusieurs années, ils ont déjà changé des molécules, etc.
Mais il doit déjà des solutions alternatives, j'imagine.
Traîner la patte.
Mais la question centrale, c'est surtout sur l'utilisation des poils et voire même leur surutilisation et les traitements de nettoyage qu'on peut leur allouer qui renforcent justement, faute d'autres termes...
La toxicité.
La toxicité. Sur Seb, on va juste remettre 2 secondes les choses en place pour avoir assez bien connu le groupe. C'est quand même grâce à ce groupe que le mot réparabilité est présent dans le Larousse et dans le dictionnaire, parce que c'est une des premières entreprises qui a fait en sorte, entreprise française, j'entends, de lutter contre l'obsolescence programmée, à eux d'appliquer la même chose sur cette question des poils. Et puis après, moi, là, je suis relativement raccord avec Thierry de la Tour d'Arthez quand il disait que c'est un sujet qui doit être en alignement avec l'Union européenne. Et encore une fois, ça nous amène à une question qu'on a déjà traité à de nombreuses reprises ici, c'est quel est le rôle de l'Union européenne et à quel moment on va tous agir de concert sur des questions qui concernent l'ensemble des Européens.
Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet pour un patron d'entreprise. Il pourrait y avoir d'ailleurs demain peut-être une action collective, j'en sais rien, une responsabilité pénale même qui pourrait être engagée, c'est-à-dire à vendre un produit s'il est toxique. Alors visiblement, les seuils, voilà, il y a une discussion scientifique, on n'est pas dans les seuils. Visiblement, le matériau qu'utilise Tefal n'est pas le même que le fameux téflon originel de Dupont de Nemours, etc.
Variables.
C'est ce que j'ai lu, il y a différentes variables. Donc tout ça, on entre dans la technique. Mais on ne peut pas balayer le sujet.
Voilà. La menace ne concerne pas que Tefal, d'autres fabricants de poils en France.
Voilà, et aujourd'hui, on a quand même un public jeune qui est
sensible à
ces questions. Et donc, il faut le traiter. Et c'est vrai que Seb, ça reste une magnifique entreprise française.
Non, mais on est d'accord avec ça. Mais
donc, ils ont les moyens de le
faire. Sur le sujet de la question industrielle, le projet de loi prévoyait aussi d'interdire tous les produits entrant sur le territoire qui étaient toxiques de la même manière. Donc ça veut dire que Seb n'aurait plus eu aucun concurrent. Et là, c'était un boulevard justement pour innover et pour s'approprier le marché, non, Nicolas ?
Oui. Moi, j'entends les arguments et je les comprends. Mais j'ai une crainte qui est que périodiquement, on ait des grands sujets comme ça qu'on traite très très vite. Parce que comme vous l'avez dit, il y a eu très peu de débats. Il y a un vrai débat scientifique. Il y a des questions de la dose, il y a des questions de l'interaction. Je pense qu'il faut, clairement, il faudrait financer plus de recherches là-dessus.
On agit sur le principe de précaution.
Oui, mais je vous donne un autre exemple sur lequel on n'agit pas du tout sur le principe de précaution et qui, en termes de santé publique, est sans doute beaucoup plus important. Ou d'après certains spécialistes épidémiologistes, le vrai sujet du 21e siècle, c'est la qualité de l'air. Et ça, personne n'en parle. Parce que, pourtant, on vit à 80% dans des bâtiments fermés, avec de l'air en circuit fermé, des climatisations, des réglementations écologiques qui sont prises pour toute une série de raisons qu'on connaît, qui sont des bonnes raisons, mais qui contribuent à faire que nos cuisines, par exemple, sont des espaces en vase clos. Dans les cuisines, vous avez la poêle Seb qu'on voit à l'écran, mais vous avez aussi tous vos produits. Si vous la transformez en vase clos, vous respirez ça en permanence. Bon. Et donc, ayons des approches globales en termes de santé publique et ne tombons pas dans le travers qui consiste à dire ce mois-ci on se fait l'épiphas, dans 3 mois...
Non, mais vous avez raison.
Non, mais on peut imaginer qu'on
ailleurs,
en soit au début du dialogue.
Aussi remettre en perspective, on a globalement une sécurité sanitaire qui s'est renforcée au fil des décennies. Preuve en est quand même l'allongement de l'espérance de vie, le fait qu'on la consommation notamment de produits agricoles et agroalimentaires, et Dieu sait si ça suscite débat, ne nuit pas globalement à la santé. Donc il y a des sujets, il faut les traiter, mais sur le long terme, on a quand même une protection du consommateur qui s'est accrue.
Et l'allongement de l'espérance de vie, c'est un très bel exemple. En Occident, en Europe, c'est le traitement de l'eau et les canalisations. Mmh. Après, c'est les antibiotiques. Donc, on a de l'innovation qui améliore la qualité de vie, ouais. C'est certain.
Ouais. Samuel, pour conclure là-dessus.
Très rapidement, la démonstration d'Audrey m'a fait rappeler un problème que je n'avais pas pris en compte en préparant l'émission. On a beaucoup parlé des poils, mais il y a aussi la question des robots de cuisine.
Ouais.
Qui ont exactement les revêtements.
Ouais. Et tous les ustensiles de cuisine sont concernés par l'exemption.
Ben voilà, donc là, ça va pour le coup aller sur les objets connectés et ça risque d'être encore une autre problématique. Ouais. Les ventes sont en hausse et à peu près énormément de ménages sont équipés de ce point de vue-là.
Alors, on peut quand même imaginer
vont se multiplier dans
Mais voilà, parce que maintenant que l'opinion publique est saisie, est informée du sujet, on espère en tout cas que ça
aujourd'hui
ne soit
c'est
que le
demain
de
ce sera le creuset.
Bon, maintenant qu'on n'est plus inquiet pour les poils Tefal, est-ce que vous êtes inquiet pour les start-up françaises? On pose la question parce qu'apparemment elles ont du mal à trouver de l'argent depuis le début de cette année 2024.
Et oui, puisque d'après les données du cabinet EY, elles ont levé un peu plus de 1,9 milliard d'euros sur le premier trimestre et c'est 5% de moins que sur la même période de l'an dernier. On écoute tout de suite Maya Noël, la directrice de France Digital, qui était ce matin sur BFM Business.
Je pense que les bons projets continuent à être très bien financés. Il reste de l'argent et là on est en train de redécoller. Donc le début de l'année n'est pas forcément évident. Ça traduit aussi la même chose que la fin de l'année dernière. Mm-hmm. Néanmoins, ça montre que si on a un beau projet, on peut continuer à être financé. Et donc aujourd'hui, on a Pigment. Hier, il y avait aussi Blablacar qui a annoncé une levée de 100 millions. Mm-hmm. Donc il y a quand même beaucoup de signaux positifs qui montrent qu'on est capable toujours d'encourager nos champions.
Et oui, vu que les taux remontent, on a l'impression que la fête est finie d'un seul coup. Là, on commence à séparer le bon grain de livret. On regarde beaucoup plus les dossiers. On est beaucoup plus regardant d'un seul coup.
Le temps de l'argent facile est terminé. Samuel.
Oui, il est terminé parce que les fonds d'investissement, alors que c'est leur rôle en premier lieu, se sont enfin posé la question de la rentabilité parce qu'il y a eu des mauvais usages de patrons de start-up. Alors moi, ça m'a fait rire quand le sujet a été annoncé parce qu'il se trouve que sur le dernier extra time auquel j'ai eu droit, j'avais évoqué un entrepreneur qui avait oublié sa levée de fonds à 17 millions d'euros. Ouais. Ça nous renvoie toujours au même problème. C'est beaucoup de start-upers qui ont confondu argent délevé et argent personnel, ça pose toujours la même question, c'est celle des business models. Évidemment que dans toute start-up, il y a une utilité, il y aura toujours quelqu'un pour y souscrire. Mais si vous n'avez pas la vision à long terme pour mener le projet à bien, pour assurer le paiement de vos salariés et pour vivre en dehors des levées de fonds, ça sert à rien. Si vous prenez, moi j'ai souvenir, il y a 2 ans, où j'allumais, parce que je le fais par plaisir, BFM Télé ou BFM Business en zappant entre les deux, il n'y a pas un jour où on ne voyait pas une annonce d'une nouvelle licorne. C'était sur le mois de juin, février 2022, si je ne dis pas de bêtises.
Et la nouvelle depuis ce matin.
La nouvelle depuis ce matin, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'annonce de ce type, mais à un moment, on rentrait dans un délire total, on était en train de se dire, mais jusqu'où ça va s'arrêter? Alors, il y a les optimistes qui se disaient...
Parce que l'argent était facile, comme disait Audrey, parce qu'on prenait tout en espérant avoir la bonne pioche. Parce que,
et puis, on n'a pas eu de scandale non plus sur les fameuses licornes dont vous
parlez. C'est la fin du mindset où ça m'a marre et du storytelling maintenant, et ça fait 5 ans maintenant qu'on
est. Ça, c'est votre chouchou.
Bien sûr, il faut être dans le story making. Il ne faut plus dire, il ne faut plus valoriser des idées, il faut les mettre en application.
Bon, on peut se féliciter aussi que sur la quinzaine de licornes qui existent en France, il n'y en ait pas une qui ait quitté le territoire français malgré la fiscalité.
Sur la quinzaine qui existe, quand on était à 30 il y a 2 ans.
Oui.
Parce que vous prenez en compte les valorisations actuelles.
Donc certaines licornes ne sont plus licornes aujourd'hui, finalement.
Exactement.
Le vrai problème des start-up. Et pourquoi on en a moins, pourquoi elles ont du mal à se développer? C'est parce qu'on n'a pas assez d'épargne longue. Oui. En Europe, il y a 9000 milliards d'épargne longue qui manquent. Si on se compare par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, on est des pays avec très peu de capitalisation retraite. Et la capitalisation retraite, c'est stratégique parce que c'est l'argent qui est investi à 10, 20, 30 ans.
Oui.
Si les États-Unis sont les meilleurs dans la tech, si les États-Unis sont les meilleurs dans l'IA, c'est parce qu'ils ont des start-up qui grossissent grâce aux fonds de pension. Les fonds de pension, c'est la couveuse des start-up.
Et puis grâce à la commande publique aussi.
Oui, la commande publique amorce. Une fois que vous avez la commande publique, vous allez voir les experts financiers et vous leur dites « je vais me développer ». Et là, l'argent arrive, c'est l'argent des fonds de pension, l'argent des retraites. Tous les grands, tous les GAFA, tous les SpaceX, tout ça, c'est la commande publique, un peu de commande publique au départ, et encore pas chez tous, et beaucoup d'épargne retraite. Et ça, c'est ce qui nous manque. Donc on a eu le petit moment start-up, il est en train de se dégonfler, parce qu'on n'a pas traité le sujet épargne longue. C'est un problème français,
ça, c'est
pareil en Allemagne.
C'est culturel, ça.
C'est pareil
culturel,
en Italie. C'était culturel, c'est fini.
Non, mais attendez, ça ne concerne pas que la France, c'est un phénomène plutôt global et général. Les levées de fonds, elles sont moins importantes aux États-Unis aussi.
Vu ce que l'on veut, les ambitions qui sont celles de la France, de l'Europe, mais de la France en particulier, notamment sur l'intelligence artificielle, où on a annoncé et fait des annonces quand même importantes récemment, il faut continuer quand même d'encourager les projets, les chercheurs, vu notre ambition en matière de réindustrialisation, vu les questions de transition écologique, vu les questions de responsabilité sociale et environnementale, je crois qu'il faut quand même, et je sais qu'une antenne comme BFM Business le fait beaucoup, notamment à travers les BFM Awards, donc il ne faut pas se décourager et il faut continuer d'aller chercher. Je pense que là, on est peut-être dans une phase un peu de retournement et d'adaptation, d'ajustement, parce qu'il y a peut-être eu trop de projets, donc il faut être exigeant sur la qualité des projets, mais en tout cas, il ne faut pas renoncer à penser qu'il faut favoriser cet investissement-là, et notamment pour les femmes en particulier, que j'en vois, il y a offensive sur le plan de ces start-up.
Oui, offensive, avec beaucoup de projets. Pourtant, les femmes n'ont toujours accès qu'à 2% des
fonds. Voilà,
des
mais investis. Donc, continuons le combat.
Samuel,
voilà, c'est cyclique.
Oui, c'est cyclique.
C'est cyclique. Bon, on verra quand sera le prochain renouvellement, même si je doute que le fonds d'investissement et les financiers fassent preuve d'autant de latitude que par le passé. Et après, effectivement, la question, c'est d'accompagner les bonnes start-up, celles qui ont une utilité, celles qui ont quelque chose à faire valoir. Il y a beaucoup de projets qui doivent être menés et ça doit être un soutien. Mais aujourd'hui, il va falloir changer le mindset d'une manière ou d'une autre et revenir à des choses très concrètes. L'intervention d'Emmanuel, moi, m'intéresse. C'est quand vous parlez d'industrialisation et comment est-ce qu'on peut réussir ce mix pour remettre ces deux catégories d'emplois au même niveau et faire en sorte que ce soit une locomotive au moins pour notre pays, dans un second temps pour l'Union européenne, et enfin
mais
pour le monde.
Le réveil est douloureux. 1,9 milliard levé là au premier trimestre. Premier trimestre 2022, 4,7 milliards. Voilà, donc ouais. C'est quand même... Oui, Nicolas, vous voulez dire un mot juste pour finir.
La clé pour tous ces sujets que vous avez évoqués, la réindustrialisation, la transition, l'IA, c'est l'épargne. Si on a été les premiers avec l'Angleterre dans les premières révolutions industrielles, c'est parce qu'on avait un drainage de l'épargne.
Mais on n'arrive plus à drainer l'épargne.
Si on est à la traîne,
l'économie,
l'épargne, elle est investie qu'en bon du trésor français.
Oui, c'est ça.
Dans l'assurance vie, on a quand même plus de 2000 milliards.
L'épargne en Europe, elle finançait les chemins de fer qui étaient la tech d'aujourd'hui. Elle finançait les débuts de l'électrification. Elle servait à faire ça.
Oui, mais c'est bien pour ça, Nicolas, que la France pousse l'union des marchés de capitaux.
Oui, ce que devrait pousser la France, concrètement, je vous l'ai dit, elle devrait commencer à provisionner les retraites de ses fonctionnaires et elle devrait pousser l'Union européenne à généraliser les capitalisations collectives partout. Il y en a aux Pays-Bas, ça marche très bien. Ouais. Il y en a en Angleterre, alors ils ne sont plus dans l'UE, mais ça marche très bien, ça finance des retraites.
Il y en a dans le secteur public en France.
Il faut faire ça et ça sera bon pour le pouvoir d'achat et ça sera bon pour l'innovation.
Bien, une minute avant vos avis pour demander si vous êtes content que finalement, le pass Rail Jeunes voit le jour le 15 juin prochain, forfait de 49 € qui permettra aux jeunes de moins de 27 ans d'emprunter de manière illimitée les TER, les intercités dans toutes les régions du pays. Ça a failli pas se faire jusqu'à hier soir, c'était pas gagné, différent entre plusieurs régions, finalement ça se fait. Voilà, les voyages en jeunesse,
comme on
dit.
Un peu de démagogie dans cette mesure, bien sûr qu'on a envie que les jeunes puissent circuler le plus facilement possible, mais enfin qui va payer? Parce que c'est pas la SNCF d'après ce que j'ai compris, donc c'est les régions, c'est l'État.
Les régions disent que c'était au gouvernement de payer.
On multiplie ces petites dépenses, chacune a ses raisons, mais enfin, on a mis récemment une subvention pour faire réparer ses vêtements. Et je trouve que c'est pas très raisonnable dans la période dans laquelle on est.
Ok, 30 secondes chacun, messieurs, là-dessus.
Oui, je suis d'accord. C'est encore l'État qui décide avec l'argent des autres, l'argent de la SNCF, l'argent des régions. Il tord la main à tout le monde. Si l'État faisait ce qu'il a à faire et laisser les autres faire leur job, je serais plus rassuré.
Le message est passé, ça s'est dit, Samuel.
Indépendamment des considérations de coût, je vous citerai François Hollande à l'arrivée, c'est l'État qui paye. Ok, très bien, moi je vais me réjouir pour les jeunes qui sont dans des situations professionnelles difficiles, dans un contexte compliqué. Donc on va essayer de voir le bon côté de la chose et à titre personnel très heureux. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a quelques présidents de région qui sont montés au front.
Oui.
Pour ne
parce
pas
que
avoir
l'Île-de-France,
justement
parce que l'Île-de-France
Hervé Morin,
pas dans la
Xavier
boucle.
Bertrand et Laurent
alors
Wauquiez,
sur l'Île-de-France et les transports, ça c'est encore un autre problème et c'est cataclysmique, mais au moins sur ce volet-là, on peut au moins se réjouir pour les jeunes qui pourront aller voir leur famille.
Et puis c'est une belle annonce à quelques semaines des élections européennes.
Aussi, oui, j'ai pas envie de le dire,
évidemment.
Oui.
Allez, 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time pour finir comme tous les soirs vos avis, coup de gueule, coup de cœur sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de ce format. Nicolas, est-ce que vous voulez y aller? Allez, 30 secondes.
Oui, volontiers. Alors, moi, j'ai un satisfecit. Je suis ravi de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, les RAF, parce qu'ils augmentent les retraites de 6,8%. Et c'est pas l'État qui paye, c'est les marchés financiers qui payent, puisqu'ils font ça grâce aux dividendes et plus-values qu'ils ont encaissés. Ils ont mis de l'argent de côté. Ils ont provisionné 126% des promesses qu'ils font. Et ça permet de gagner de l'argent et de le redistribuer à tous les fonctionnaires sans que ça coûte rien au budget.
Et ben voilà.
Et c'est pas l'État qui paye.
Je parle de bons gestionnaires, moi je parle des mauvais.
Et oui, mais on est complémentaires.
Exactement. Mais c'était le coup de cœur de Nicolas Marquet. Samuel Botton, puisque vous avez pris la parole.
Oui, alors moi, c'est les conclusions de Bercy sur les contrôles qui ont été menés sur les influenceurs. Donc à peu près 315 qui ont été contrôlés, la moitié qui ne sont pas en règle. Et j'entends toujours la même chose. Alors des bad buzz en influence, j'en ai vu plein, notamment sur les Jeux Olympiques des influenceurs de France Télévisions, où certains ont été retirés du casting parce qu'on s'attarde pas suffisamment sur leur passif et leur dossier. Et toujours le même discours des agences d'influence et des syndicats qui représentent, en disant oui, mais ils sont mal accompagnés, ils sont mal conseillés, on a encore du travail à faire. Ouais, je veux bien, ça fait 8 ans que la discipline elle existe dans les agences, ça fait 8 ans qu'on est confronté aux créateurs de contenu et aux influenceurs. Donc à un moment, il va falloir changer le mindset, remettre un peu d'ordre dans tout ça et faire en sorte d'être dans les clous.
Et ben voilà pour le coup de gueule ce soir de Samuel. Emmanuel Kessler, c'est un bouquin ou pas encore ce soir?
Non, c'est pas un bouquin. Alors au départ, c'était un coup de gueule parce que je trouvais ça ridicule que l'Assemblée nationale, vu l'ampleur des problèmes qu'on a à traiter, examine une proposition de loi sur la discrimination capillaire. Puis finalement, j'ai gardé de près et ça devient un coup de cœur parce que je pense que c'est finalement un vrai sujet. J'ai lu des études qu'il y a beaucoup de femmes, notamment d'origine africaine, qui, parce qu'elles ont des dreadlocks, parce qu'elles ont des tresses, etc., se voient refuser des emplois. Donc il faut se saisir de ce sujet. Je suis pas sûr qu'il faille une loi parce que je pense qu'il y a déjà des arsenaux législatifs contre les discriminations, mais des bonnes pratiques il en faut. Et mettre le sujet sur la table, c'est intéressant. Ça prouve que la représentation nationale n'est pas déconnectée des préoccupations quotidiennes.
Eh bien, vous venez de le faire ce soir. Vous avez mis le sujet sur la table.
On a parlé sur BFM Business de ce
problème
de discrimination capillaire, qui est un vrai sujet, évidemment. Merci messieurs, 19h54, c'est fini ce soir. Nicolas Marquès, directeur général de l'Institut Molinari, Emmanuel Kessler, journaliste économique, Samuel Botton, expert en communication. Merci messieurs. À très vite avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. 19h55, c'est fini.
Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver et ça s'affiche avec le QR code sur vos écrans. Sinon, c'est bfmbusiness.com et sur toutes les plateformes, évidemment. Et puis, bien sûr, Good Evening Business sera là demain soir.
On revient demain, 18h évidemment, fidèle au poste. Dans un instant, Frédéric Simotel aux commandes de Take & Co. jusqu'à 21h30 en direct sur BFM Business. Bonne soirée à toutes et à tous.
À demain.
Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.